Europe 1,
18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour 2 heures d'information, d'analyse, de débat avec nos invités. C'est votre grand journal du soir. Dans un instant, Sébastien Krebs pour l'info.
Bonsoir, bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
À la une de l'actualité ce soir, la Chine, avec 3 villes placées en quarantaine désormais en France, la ministre de la Santé Agnès Buzyn s'est exprimée sur ce coronavirus. 18h20, elle en a envie, une énorme envie hein, de cette présidentielle de 2022. Ségolène Royal, mon invitée ce soir depuis Marseille, alors qu'elle sera officiellement en fait licenciée demain au Conseil des ministres de sa fondation d'ambassadrice d'épaule, même si elle a déjà pris le large, vous comprendrez, et vous l'entendrez régler ses comptes aussi. 18h30, les grandes voix et le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Et puis à 19h30, l'entrepreneur Alexandre Mars nous rejoint. Tout le monde peut créer son entreprise, dit-il, il le répète, il nous donne tous les conseils et vous pourrez aussi le questionner au 39-21. C'est votre grand journal du soir, chargé, varié, et aussi pour vous faire sourire et pour écouter le monde changer.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Nous avons mis au point un test dans un temps record qui permet en France, en réalité, de diagnostiquer très rapidement dans la journée tous les malades potentiels.
La majeure partie des hôpitaux de France bientôt équipés pour détecter le coronavirus apparu en Chine, alors que Pékin prend des mesures drastiques, 18 millions d'habitants coupés du monde.
Et les festivités du Nouvel An chinois, tout simplement annulées.
Est-ce le dernier baroud d'honneur ? Retour des perturbations dans les transports. Demain, la réforme des retraites présentée en Conseil des ministres.
Dans ce journal également, la décrue dans les Pyrénées-Orientales.
Et le monde entier à Yad Vashem pour commémorer la Shoah.
Nous ne laisserons pas faire. Car la promesse de la France est bien une promesse de souvenir et d'action.
Emmanuel Macron et une quarantaine de chefs d'État.
Et est-ce une forme d'aveu ? Michel Fournier demande à être considéré comme coupable dans l'affaire Estelle Mouzin.
Enfin, le naufrage du tennis français, 18 au départ, un seul au troisième tour de l'Open d'Australie. Gaël Monfils.
Si les résultats, pour l'instant, sont moins à la hauteur de notre grande nation du tennis, je pense que quand même dans un futur très proche, ça sera de nouveau au top. Quoi.
La bourse de Paris termine en baisse ce soir de 0,65% à 5971 points.
Bonsoir Anissa, la couleur du ciel demain.
Alors demain, l'Aude, toujours placée en vigilance rouge, crue inondation, vigilance avalanche qui est levée sur les Pyrénées-Orientales. Et demain, bonne nouvelle sur ces deux départements, le temps sera sec, il y aura de la pluie ailleurs. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Mais d'abord donc cet entretien que Ségolène Royal vous a accordé, Nathalie, à la veille d'un conseil des ministres qui va la démettre demain de ses fonctions d'ambassadrice des pôles. Ségolène Royal ne cache plus ses intentions si elle ne prononce pas le mot candidature. En fait, c'est tout comme, elle vise la présidentielle.
On m'a sommé de choisir entre cette mission et ma liberté de parole. Je choisis ma liberté de parole parce que je pense que c'est bon qu'il y ait un débat démocratique et surtout qu'on construise une troisième voie entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Parce que quand on nous dit qu'il y a circulé, il n'y a rien à voir, ça sera juste ce choix, eh bien je pense que c'est grave pour la démocratie. Maintenant, vous savez, je le fais avec beaucoup de modestie parce que je sais aussi ce que ça représente comme prise de risque, comme exposition, comme coût à prendre. J'en ai l'expérience. Mais je ne peux pas ne pas bouger. Parce que si on a ce choix en 2022, je me dirais à moi-même, mais pourquoi tu t'es pas bougé ?
Ségolène Royal qui ne cache plus ses intentions, vous l'avez compris. Entretien à suivre dans son intégralité, juste après votre journal, Sébastien.
Le cas Royal, donc au Conseil des ministres, mais pas seulement demain, puisque le gros morceau sera la présentation de la réforme des retraites qui tient en 2 textes de loi qui seront ensuite envoyés à l'Assemblée. Premier débat mi-février.
De nouvelles actions des syndicats sont organisées dans le même temps, encore ce soir, là, avec des marches au flambeau dans plusieurs villes. Et cela avant une nouvelle journée de mobilisation nationale demain. Ce sera d'ailleurs la 7e.
Alors, est-ce un baroud d'honneur ? On verra l'ampleur des manifestations dans la rue. En tout cas, c'est le retour des perturbations dans les transports, Maud Descamps.
Oui, alors ce sera plutôt à la RATP. Hein. 12 lignes de métro très fortement perturbées. Par exemple, sur la ligne 13, il n'y aura qu'un train sur 4. À la SNCF, en revanche, le trafic sera normal pour les TGV, Ouigo, Thalys et Eurostar. Et il y aura 7 TER sur 10 en circulation. Alors, il y aura quand même certains secteurs fortement perturbés, notamment dans les crèches. Certaines seront fermées, d'autres en horaires réduits. Même chose dans les cantines, notamment chez les personnels Sodexo. Les Les enseignants devraient également suivre le mouvement. Le SNES-FSU, un premier syndicat chez les enseignants, s'attend à une grosse mobilisation. Même chose dans le secteur de l'énergie, avec des blocages dans toutes les centrales EDF. D'autres coupures sauvages d'électricité sont également à attendre, a prévenu la CGT. Et il y aura aussi une nouvelle opération port mort organisée par la CGT des ports et des docks.
Les informations ce soir de Maud Descamps du service économie d'Europe 1 et toutes les prévisions en détail bien sûr sur europe1.fr.
Et cette réforme des retraites avec ce conseil des ministres attendu demain, on en reparle avec les grandes voix 18h30. Venons-en maintenant au coronavirus qui préoccupe bien au-delà des frontières de la Chine.
Oui, là-bas des mesures drastiques ont été prises pour isoler des millions d'habitants. On va y venir dans un instant. D'abord en France, sans attendre les conclusions de l'Organisation mondiale de la santé qui est à nouveau réunie ce soir, le gouvernement vient d'annoncer avoir mis au point un test permettant un diagnostic rapide. Écoutez la ministre de la Santé Agnès Buzyn.
Nous sommes d'ores et déjà d'abord en mesure d'avoir un diagnostic très rapide. Le Centre national de référence des coronavirus à l'Institut Pasteur et d'ici demain un centre à Lyon seront en mesure de faire un test diagnostic rapide en quelques heures. Et d'ici la semaine prochaine, la majorité des hôpitaux, des grands hôpitaux français, sera en mesure d'effectuer le test. Il a fallu mettre au point un test spécifique puisqu'il s'agit d'un nouveau virus. Nous avons mis au point un test dans un temps record qui permet en France, en réalité, de diagnostiquer très rapidement dans la journée tous les malades potentiels.
Agnès Buzyn avec Jean-Jacques Herry. Une dernière information ce soir concernant la Chine.
La Chine qui annonce donc le premier décès hors du berceau de l'épidémie. Ce berceau de l'épidémie, c'est Wuhan qui est désormais coupé du monde, de même que la ville voisine. Imaginez 18 millions d'habitants coincés, c'est plus que l'Île-de-France, plus un transport en commun, pas de train, pas d'avion, péage autoroutier fermé, interdit de voyager en plein nouvel an chinois. Et dans la capitale à Pékin, la cité interdite a été fermée, toutes les festivités sont annulées. Reportage de notre correspondant Sébastien Lebelzik.
Voilà le genre de musique que l'on n'entendra pas cette année dans les parcs de Pékin. La danse du dragon, les marchés traditionnels, les feux d'artifice. Tout cela est annulé en raison de l'épidémie qui continue de se propager en Chine. Une mauvaise nouvelle pour cette famille pékinoise.
On n'a pas le choix, on doit rester à la maison. De toute façon, ce n'est pas très raisonnable de sortir en ce moment.
Est-ce que du coup, vous avez peur de sortir ?
C'est pas vraiment de la peur, mais il faut être sérieux pour soi-même, mais aussi pour les autres.
Alors que la moitié des provinces chinoises sont touchées par l'épidémie, beaucoup de familles vont rester chez elles demain soir pour le nouvel an. Et c'est à la télévision qu'ils suivront l'entrée dans l'année du rat. Le spectacle diffusé chaque année par la télévision d'État CCTV devrait du coup battre demain soir tous les records d'audience. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Il est 18h06 sur Europe 1, la suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Forme de soulagement ce soir dans le sud-ouest après le passage de la tempête Gloria. Les dégâts sont bien moins importants que ceux que l'on pouvait craindre.
La décrue est amorcée, la vigilance rouge est toutefois maintenue sur le département de l'Aude, mais levée sur les Pyrénées-Orientales où plus d'un millier d'habitants ont dû quitter leur maison la nuit dernière. Écoutez Thierry qui a pu rentrer chez lui aujourd'hui. Pas de dégâts dans sa maison, mais une grosse lassitude. C'est la troisième alerte aux inondations en 3 ans.
On ne peut rien faire de spécial pour éviter ça, quoi. On fait avec, mais bon, on compte quand même partir bientôt, quoi, d'ici, pour changer un peu de quartier. Et c'est vrai qu'un peu tous les ans, ça commence un peu, ça devient un peu critique. Hein. À force des constructions qu'il y a autour et tout, c'est vrai que l'eau, elle a du mal à s'écouler, à force. Hein. Ça construit. Au début, c'est inondable. Après, c'est plus inondable. Pourquoi et comment, alors qu'il n'y a rien qu'à changer. Et là, ça craint de plus en plus, quoi. Il y a beaucoup plus de ruissellement, quoi.
Puis des journées comme ça, c'est fatigant.
Ouais, c'est crevant, ouais. Surtout qu'on sait que bon, si la maison prend l'eau, après la maison est foutue, entre guillemets. Les placos, tous ces trucs-là, après c'est dur à vendre. Vaut mieux partir avant, ouais.
Un témoignage recueilli par notre correspondant en Occitanie, Benjamin Peter. Et ce soir, c'est l'île de la Réunion qui est placée en alerte cyclonique orange avec des pluies intenses et une forte houle attendue la nuit prochaine.
Europe 1.
Le grand journal du soir sur Europe 1. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
40 chefs d'État réunis pour se souvenir les 75 ans de la libération d'Auschwitz-Birkenau et la question de l'Iran qui s'invite dans les discours. C'est à suivre dans votre journal de 18h. On sera donc en Israël.
Et puis Michel Fourniret dit vouloir être considéré comme coupable dans l'affaire Estelle Mouzin.
2 heures d'info, c'est votre grand journal du soir, tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h10 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
unis, unis dans le souvenir. 75 ans après la libération d'Auschwitz, le monde s'est recueilli au mémorial de la Shoah à Yad Vashem, en Israël.
Ouais, c'est le rassemblement le plus important de l'histoire du pays. Une quarantaine de dirigeants présents, dont Vladimir Poutine, le vice-président américain Mike Pence, le prince Charles d'Angleterre, et encore, ou encore Emmanuel Macron, un front commun contre l'antisémitisme. Adrien Beck, avec un message répété, hein, vous êtes sur place, ne jamais oublier.
Oui, tous les chefs d'État qui se sont succédés à la tribune l'ont répété. Le message est unanime. À Yad Vashem, il s'agissait donc de commémorer le passé, la Shoah, mais aussi de faire le lien avec le présent, la lutte contre l'antisémitisme qui remonte en France, a dit Emmanuel Macron.
Nous ne laisserons pas faire. Car la promesse de la France est bien une promesse de souvenir et d'action. Zahor al-Tishkar. Souviens-toi.
Mais en parallèle, le front uni s'est craquelé avec le message très politique de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien qui a dénoncé dans son discours les tyrans de Téhéran, l'Iran qui fait selon lui courir le risque d'une autre Shoah. Face à cela, Israël doit rester ferme, a appuyé le vice-président américain Mike Pence, des propos pointés en filigrane par Emmanuel Macron.
Nul n'a le droit de convoquer ces morts pour justifier quelques divisions ou quelques haines contemporaines. Car tous ceux qui sont tombés nous obligent.
Emmanuel Macron qui, dans le même temps, a assuré hier que la France sera intraitable sur le nucléaire iranien, tout en assurant vouloir éviter une escalade militaire dans la région, quelle qu'elle soit.
Adrien Beck en ligne de Jérusalem pour Europe 1. Le porte-avions Charles de Gaulle a pris la mer pour 3 mois. Il rejoint l'est de la Méditerranée pour combattre les derniers foyers de Daesh. Les marins ont reçu la visite du Premier ministre Édouard Philippe qui a passé la nuit dernière à bord.
Et on en vient maintenant à ces nouveaux éléments dans l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin. On vous le rappelle, c'était en 2003. Michel Fourniret demande désormais être considéré comme coupable.
Alors, est-ce une forme d'aveu ? L'ombre du tueur en série plane plus que jamais dans ce dossier, hein, depuis que son alibi a été fragilisé par son ex-épouse, Monique Olivier, qui sera d'ailleurs à nouveau interrogée demain. Bonsoir Guillaume Bier.
Bonsoir.
Michel Fourniret a eu ses propos face à la juge fin novembre.
Oui, et lors de cet interrogatoire, une dizaine de pages que nous avons pu consulter, le tueur en série livre dès sa première réponse une formule ambiguë dont il a le secret. « Ma mémoire fiche le camp, mais je ne suis pas complètement sûr de n'y être pour rien. » C'est typiquement du Michel Fourniret dans le texte. Même si on sait qu'il est atteint de réels troubles de la mémoire, « elle me fait défaut », dit-il à 77 ans. « Ce n'est pas drôle de vieillir, les neurones, ils foutent le camp », ajoute l'ogre des Ardennes. Loin d'être dupe, la juge Sabine Kéris lui glisse « on a l'impression que vous faites le tri dans vos souvenirs ». Absolument pas, rétorque Fourniret, je joue franc jeu avec vous. Néanmoins, tout au long de cet interrogatoire de première comparution, le tueur en série n'est jamais catégorique. Il multiplie les réponses de Normand, comme il le dit lui-même, possible que oui, possible que non. Il répète face à la photo d'Estelle Mouzin que rien ne fait tilt et que s'il était pour quelque chose dans sa disparition, ça ne lui ferait rien de l'avouer, mais qu'il n'en a pas souvenance. Sa dernière réponse se conclut ainsi, je le cite, « Dans l'impossibilité où je suis de vous dire oui, je suis responsable de sa disparition, je vous exhorte à me considérer comme coupable, à me traiter comme coupable. » En résumé, sans jamais rien avouer, Fourniret se place lui-même en coupable présumé.
Les informations ce soir de Guillaume Bier avec Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Les sports maintenant, on va filer du côté de Melbourne où c'est franchement la catastrophe. Hein. Les Français... Que nous font-ils ?
Oui, c'est pas brillant. Ils étaient 18 au départ. Il n'en reste plus qu'un, Gaël Monfils, le seul à aller au troisième tour. Bonsoir Corinne Boulou. Chez les femmes, c'est simple, il n'y a plus personne. Hein.
Oui, effectivement. Alors si le tennis féminin français avait terminé l'année sur une bonne note, pleine de promesses avec cette victoire en finale de Fed Cup, eh bien il commence l'année sur une fausse note. Pas une française au troisième tour après l'élimination d'Alizé Cornet ce matin. C'est du jamais vu depuis 1985 et cela devient une mauvaise habitude en grand chelem. Gaëlle Monfils, désormais unique représentant tricolore à Melbourne, après les éliminations de Pierre Gerbert et Gilles Simon, n'est même plus étonnée d'avoir à expliquer à notre correspondant Georges Homsi cette faillite tricolore en grand chelem.
J'ai l'impression qu'à chaque grand chelem, j'ai cette question. De leur tomber dessus à chaque fois, c'est dur. Parce qu'on travaille tous, on essaie de faire le maximum. Il y a les jeunes qui arrivent, alors on a envie forcément qu'ils arrivent un peu plus vite. C'est pas facile. Si les résultats, pour l'instant, sont moins à la hauteur, on va dire, de notre grande nation du tennis, je pense que quand même, dans un futur très proche, elle sera de nouveau au top. Quoi.
Gaël Monfils, 33 ans et 10e mondial, affrontera samedi l'étonnant letton Ernest Gulbis. Il faut remonter à 2005 pour voir un seul Français présent au troisième tour.
Corinne Boulot du service des sports d'Europe 1, Gaël Monfils qui affrontera au troisième tour le letton Ernest Gulbis. Et puis chez les favoris, hein, Zverev, Medvedev, Team Alep, Pliskova, tous poursuivent leur route dans cet Open d'Australie.
Merci beaucoup Sébastien Krebs. Enfin, restez remarqués parce qu'on est ravis ce soir.
Ah oui, on
est ravis. Et on tenait à vous le faire partager, vous auditeurs, parce qu'Europe 1 a reçu aujourd'hui le Grand Prix, oui, le Grand Prix de la Radio Généraliste Nationale de l'année, prix remis par un jury de professionnels réunis au Salon de la Radio et de l'Audio Digital qui se tient en ce moment à la Halle de la Villette à Paris. Et on est d'autant plus ravis en voyant les critères retenus. Écoutez bien, l'innovation, la créativité des programmes, le ton, la personnalité, l'originalité de la présence sur les réseaux sociaux. En clair, le monde qui change, hein, voilà, qu'on écoute ensemble chaque jour sur Europe 1. Alors merci, merci à vous pour votre fidélité. Merci, on continue, n'est-ce pas?
Ah oui, on continue.
Bah c'est parti, on y va.
Alors, voilà. Merci Sébastien. Donc retour de l'info, 18h30 avec vous et Anissa. Du côté du ciel, ça s'améliore légèrement dans le sud.
Ça s'améliore effectivement. Nos auditeurs des Pyrénées-Orientales et de l'Aude soufflent enfin, puisque demain c'est une journée sans pluie qui est prévue. Donc une journée au sec. Alors attention, hein, le département de l'Aude reste toujours en vigilance rouge, crue, inondation, et les Pyrénées-Orientales en vigilance orange. Alors vous le disiez, Nathalie, une légère amélioration dans le sud, mais attention, pas dans le sud-est. Demain, tout le long de la Méditerranée, du Languedoc-Roussillon jusqu'à la Côte d'Azur et en Corse, demain, il pleut. Sur l'Hérault et le Gard, les pluies seront moins soutenues que ces derniers jours. Quelques petites gouttes sont même attendues jusqu'en Auvergne. Sur les Alpes, c'est de la neige à partir de 1500 mètres. À l'ouest, sur les Pays de la Loire et les Charentes, là, les pluies de la matinée vont laisser place à un ciel bien chargé l'après-midi. Et puis sur tout le reste du pays, hein, si je n'ai pas cité votre région, du nord au Cotentin, en passant par la région parisienne, le ciel est nuageux mais le temps reste sec. Et puis sur le quart est, c'est là qu'il fera le plus beau demain en Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, Val-de-Saône. Les températures toujours fraîches, moins 4 à 10 degrés demain matin.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec votre invitée Nathalie Lévy.
Eh oui, la présidentielle de 2022, c'est loin, très loin, mais elle y pense déjà. Ségolène Royal, qui ne sera plus officiellement demain ambassadrice des pôles, nous dit sa vérité ce soir sur Europe 1. Et vous allez l'entendre, elle fait un pas de plus aussi vers sa future campagne. Ségolène Royal s'est installée à Marseille et elle est avec nous dans moins de 2 minutes pour tout nous livrer, tout nous révéler.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Elle est aujourd'hui à Marseille, alors qu'elle sera officiellement démise demain de sa fonction d'ambassadrice des pôles. Ségolène Royal prend la parole ce soir sur Europe 1 et fait un pas de plus vers sa candidature probable en 2022.
Bonsoir Ségolène Royal, merci d'être avec nous depuis Marseille. Vous êtes là-bas pour soutenir Samia Ghali, ex-PS, candidate d'hiver gauche au municipal. On est une semaine après le lancement de votre nouvelle association. Le meilleur sondage, il est dans la rue, comme le dit justement Samia Ghali.
Pourquoi pas ? Il est partout. Enfin, je veux dire, c'est la rencontre avec les citoyens, de toute façon, c'est la base même de la démocratie. Donc c'est vrai que l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui, qui avait été décidée avant le lancement de ce mouvement, est une très belle opportunité, d'autant qu'elle correspond aux trois piliers de ce mouvement Désir de France, Avenir de la planète, c'est-à-dire à la fois la protection et le maintien du système social français, la nécessité de répondre à l'urgence écologique, et puis le troisième pilier, c'est la question de la nécessité de répondre à la crise démocratique dont on voit les dégâts aujourd'hui en France, avec des décisions prises par quelques-uns, pour le plus grand nombre, qui se rebiffent, qui se révoltent, qui s'angoissent parce qu'ils ne comprennent pas le sens des décisions qui
sont
prises à leur place.
Madame Royal, quelques-uns, vous nommez Emmanuel Macron, j'imagine que vous parlez là de la réforme des retraites, c'est difficile d'y voir autre chose, a priori.
Oui, c'est vrai, c'est-à-dire on peut le constater. Vous voyez, regardez, ça faisait des jours et des jours de conflits sociaux et de grèves, alors même que le problème des gilets jaunes n'était toujours pas résolu, donc il fallait quand même être imprudent pour lancer une réforme de cette lourdeur, de cette ampleur, qui n'était pas préparée. Vous avez vu l'improvisation, les tâtonnements, les hésitations, tout ça parce qu'il y a un déficit démocratique extrêmement grave. Songez que le Parlement n'est toujours pas conduit à faire un débat, toute sensibilité politique confondue d'ailleurs, parce que sur ces sujets-là, il faudrait être capable de dépasser les clivages politiques, même si on voit bien que le choix idéologique, c'est un choix ultra-libéral.
Mais qu'est-ce qui s'est passé, Madame Royal ? Qu'est-ce qui s'est passé?
Vous l'aviez soutenu. Demander, oui.
Non, mais vous l'aviez soutenu, Emmanuel Macron, dernière présidentielle.
Oui, mais comme beaucoup de Français.
Bien sûr. Vous avez
regardé. Aujourd'hui, 69% des Français pensent qu'il ne sera pas réélu. Et pourtant, ils ont voté pour lui.
Il a encore une base à plus de 20%. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé?
On n'a pas voté pour avoir cette dégradation. Ce qui s'est passé, c'est le choc à la fois des gilets jaunes dont les problèmes n'ont pas été résolus. Et là où les femmes se sont levées parce qu'elles n'arrivaient plus à boucler leur fin de mois, bah, quand elles ont des toutes petites retraites, et qu'au fur et à mesure du déploiement de cette action, le choix de la radicalisation a été fait par le gouvernement pour essayer de décrédibiliser le mouvement. Et ça, c'est pas bien. Je pense que même quand ça fait pas plaisir, il faut répondre aux problèmes et aux alertes et aux angoisses des citoyens. Et deuxièmement, lancer une réforme de dégradation de la sécurité sociale dans son volet sur les retraites, on n'a pas voté pour ça. Moi, j'ai soutenu au départ parce que quand il a lancé, par exemple, des initiatives sur la protection de la planète, j'ai pensé que ça irait jusqu'au bout. Or, ce ne fut pas le cas. D'abord, il y a eu la démission de Nicolas Hulot. Ensuite, j'ai observé. Ensuite, je me suis en effet imposé, contrairement à ce qu'on dit, un droit de réserve, une obligation de réserve, parce que j'avais cette mission sur l'épaule. Mais là, j'ai été sollicité pour reprendre la parole, pour porter le flambeau de la défense du modèle social français. Je l'ai fait. On m'a sommé de choisir entre cette mission, ma liberté de parole. Je choisis ma liberté de parole parce que je pense que c'est bon qu'il y ait un débat démocratique et surtout qu'on construise une troisième voie entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Parce que quand on nous dit qu'il y a circulé, il n'y a rien à voir, ça sera juste ce choix, eh bien, je pense que c'est grave pour la démocratie.
Donc vous, Ségolène Royal, vous pensez pouvoir l'éviter, ce match Macron-Le Pen en 2022? Je veux dire par là qu'il y a eu Benoît Hamon, il y a eu Raphaël Glucksmann, ils ont tenté d'incarner la nouvelle gauche. Vous pensez pouvoir y parvenir en 2022 et éviter ce match Macron-Le Pen?
Je vais essayer. Mais tout se construit. Vous savez, la politique, c'est très difficile. Et je pense, cela dit, que la question de l'urgence écologique, elle est majeure, que la question démocratique, elle est majeure. Donc je vois là qu'il y a une continuité par rapport aux engagements qui ont été les miens depuis toujours et ceux qui sont autour de moi aussi. Maintenant, vous savez, je le fais avec beaucoup de modestie parce que je sais aussi ce que ça représente comme prise de risque, comme exposition, comme coût à prendre. J'en ai l'expérience, mais je ne peux pas ne pas bouger. Parce que
Ségolène
si
Royal,
on a ce choix en 2022, je me dirais à moi-même, mais pourquoi tu t'es pas bougé?
Avec le recul, Ségolène Royal, une semaine après la fin de votre mission comme ambassadrice d'épaule, on a toujours du mal à comprendre les raisons qui sont toujours assez floues. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer exactement, ce qui vous a poussé
les
à quitter votre fonction? Ce qui vous a poussé à quitter votre fonction?
Je l'ai pas quitté, on m'a débarqué. Mais je comprends en même temps, c'est des missions à discrétion du gouvernement. On m'a sommé de choisir entre ma liberté de parole et cette mission service d'épaule que j'ai accomplie avec beaucoup de soin parce que c'était un défi majeur, ce qui est le réchauffement au pôle est une catastrophe en matière de menaces sur les populations autochtones, en matière de destruction de la biodiversité. 70% des manchots vont disparaître avec ce réchauffement climatique. Donc j'ai apporté tout ce que je pouvais.
Vous la craignez, cette enquête du parquet financier sur votre mission d'ambassadrice d'épaule?
Il y a une transparence qui est faite. C'est bien, la transparence sur les fonds publics. Cette enquête a été ouverte suite à la dénonciation par deux journalistes. Elle est à la fois à charge et à décharge.
Vous y voyez un acharnement ?
J'y vois en tout cas une coïncidence étrange. Et en même temps, j'accepte cette transparence, même si c'est une épreuve, parce que du coup, vous voyez, il y a toujours quelque chose de désagréable, voire pire. Il y a une tentative de porter atteinte à mon honneur et à ma considération, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent, oulala, enquête préliminaire financière, alors que c'est l'ouverture d'une enquête suite à des dénonciations pour voir si ces dénonciations correspondent à quelque chose. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que si jamais il y avait eu le moins de problème, même sur 1 euro, vous le sauriez déjà. Ça serait déjà dans la presse pour me casser. Donc ça prouve que l'enquête a des charges. À mon avis, il va l'emporter sur l'enquête à charge.
Vous avez juste dit dans Le Monde récemment, vous avez cité Emmanuel Macron et sa bande de gros machos. Hein. Je vous cite Ségolène Royal.
Oui, en conversation avec une journaliste, oui, j'ai dû le dire. Oui,
vous l'avez dit. On connaît votre franc-parler. Vous pensez justement que cet acharnement-là que vous mentionnez, d'une certaine manière, c'est lié?
C'est plutôt à vous d'en faire le constat ou pas, mais à la limite, c'est aussi le combat politique, avec parfois des méthodes qui sont pas forcément très respectueuses. Ben, je les constate, je les observe. Dans d'autres temps, j'ai eu mon domicile mis à sac, saccagé, sous Sarkozy. Voilà, il y a des méthodes sans doute un peu d'intimidation, mais qui me laissent très sereine, parce que je me dis que c'est peut-être malheureusement le prix à payer pour continuer à rester debout, à dire ce que j'ai à dire,
et quand on est
sans
en campagne,
sans me laisser fragiliser. Je me sens très forte intérieurement, parce que je défends des valeurs qui me semblent fondamentales pour la France, et j'ai pas fait 30 ans de dévouement à la cause politique sans aller dans le privé ou sans essayer de me disperser ailleurs pour voir détruire ce que les générations d'avant, notamment après la libération, ont construit, à savoir le modèle social français.
Merci beaucoup Ségolène Royal, merci d'avoir été avec nous depuis Marseille ce soir sur Europe 1 avec Nathalie Chevance qui vous accompagne. Merci beaucoup Ségolène Royal.
Merci.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec le rappel des titres de Sébastien Krebs dans une seconde. Le débat des grandes voix, ils se sont installés d'ailleurs dans ce studio. Vous allez les entendre nous parler du devoir de mémoire avec les commémorations du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Et puis la réforme des retraites, ça passe en conseil des ministres demain, ça y est.
Vous voulez réagir à l'un de ces sujets, n'hésitez pas, ça se passe au 39-21 pour interroger les grandes voix. Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec vous Sébastien Krebs pour le rappel des titres.
Édouard Philippe annonce dans le journal La Croix que la conférence de financement sur la réforme des retraites sera lancée le 30 janvier. Demain, 7e journée d'action nationale contre cette réforme des retraites. Au moment où la loi arrive en Conseil des ministres, le trafic sera perturbé à la RATP sur 12 lignes de métro. 60 à 70% des TER et transiliens sont maintenus. Le trafic sera normal sur le réseau TGV. Pour la première fois, un malade est mort du coronavirus en dehors du berceau de l'épidémie en Chine. Décès intervenu dans la province de Hubei qui jouxte la capitale Pékin. En France, le gouvernement annonce la mise en place d'un test permettant un diagnostic rapide dans la majeure partie des hôpitaux, et cela d'ici la semaine prochaine. La Shoah ne peut être utilisée pour justifier la division ou la haine contemporaine. Les mots d'Emmanuel Macron au mémorial de Yad Vashem en Israël, allusion au discours notamment de Benjamin Netanyahou, très virulent contre l'Iran. Le parquet antiterroriste français saisi après la découverte d'explosifs au domicile d'un suspect. Ça s'est passé à Épinal dans les Vosges, une enquête est ouverte. Le Brexit sur les rails, il aura lieu vendredi soir prochain à minuit. La reine Elisabeth a promulgué aujourd'hui le texte d'accord. Et puis au Canada, il y a toujours ce soir 5 Français portés disparus après un tragique accident de motoneige. Tous faisaient partie d'un groupe de 8 originaires de l'Est de la France. Et on apprend que l'un d'eux est le père du biathlète français Fabien Claude. C'est lui-même qui l'a annoncé alors qu'il montait tout à l'heure pour la première fois de sa carrière sur un podium de Coupe du Monde.
Merci Sébastien. Vous revenez à 19h entier, hein, évidemment.
Ouais, tout à l'heure.
Anissa, du côté du temps.
Alors du côté du temps, nous avons une amélioration dans le sud. Ça va un petit peu mieux. L'Aude reste en vigilance rouge, crue inondation. Demain, ça va un petit peu mieux dans le sud, en tout cas sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude. En revanche, c'est sur le sud-est, entre le Languedoc-Roussillon et la Côte d'Azur. Là, demain, il va pleuvoir des pluies beaucoup moins intenses que ces derniers jours. Quelques gouttes pourront remonter jusque la vallée du Rhône et jusqu'à l'Auvergne. Sur les Alpes, il neige. Sur l'ouest, les Charentes-Maritimes et les Pays de la Loire, encore de la pluie demain. Et sur tout le reste du pays, si je n'ai pas donné votre région, ça veut dire que demain vous serez au sec avec même quelques belles éclaircies. Les températures, moins 4 à Nancy et Colmar, 0 à Lille, Paris et Rennes demain matin. Au meilleur de la journée, c'est frais, hein, 6 à Dunkerque, Strasbourg et Paris, 10 pour Lyon et un beau 17 pour Ajaccio.
Europe 1.
À la suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h ce soir pour débattre de l'actualité autour de vous, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Mickaël Darmon.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio à Jérusalem, cette commémoration de la Shoah, 75e anniversaire de la libération des camps de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, avec un moment évidemment très puissant, très fort à Yad Vashem, le mémorial. Je voudrais juste qu'on entende un extrait ce matin dans la matinale de Mathieu Béliard, une voix importante.
Si on m'aurait dit à ma libération qu'on tuerait de nouveau des hommes, des femmes et surtout des enfants parce que juifs, j'aurais dit non, il déraille, ça n'arrivera plus. Eh monsieur, c'est en France qu'on a tué le plus des juifs parce que juifs.
Benjamin Orenstein, un rescapé des camps, c'était ce matin dans la matinale de Mathieu Béliard. Il a raconté sa déportation, son passage dans 7 camps différents et sa libération. Ne jamais oublier, des témoignages bouleversants, il y en a, mais il y en aura de moins en moins avec la disparition de ces rescapés. Et il y a cette venue de plus de 40 chefs d'État sur place. D'abord, allons sur cet aspect-là, Catherine Ney, par exemple, pour démarrer. On ira bien sûr sur ces commémorations, mais aussi sur le dossier iranien qui était vraiment en arrière-plan aujourd'hui.
Oui, c'est la première fois depuis les obsèques de Yitzhak Rabin qu'il y a autant de chefs d'État étrangers qui viennent en Israël. Et là, c'est pour, pour dire devant l'opinion publique mondiale qu'il ne faut pas oublier le passé, même pour faire une sorte, établir une sorte de guide, de digue. Oui, pour ne pas l'oublier. Et à un moment où l'antisémitisme revient... dans tous les pays européens, notamment en Allemagne, où le directeur du mémorial du camp de Buchenwald dit que là, de plus en plus d'extrême droite, de gens d'extrême droite viennent et posent des tags pour nier l'importance de l'Holocauste. Et on sait aujourd'hui qu'un sondage le dit que 25% des moins de 38 ans n'ont jamais entendu parler de la Shoah.
Donc, un
Français sur 6. Donc c'est important aujourd'hui ce déplacement de tous les chefs d'État étrangers pour...
Et la place d'Israël aussi dans tout ça. La place d'Israël, le sens d'associer les deux, Charles Villeneuve, Michaël Darmon, une manière de faire front commun contre l'antisémitisme et de redonner une place peut-être centrale à Israël dans tout ça.
Oui, mais pour moi, la meilleure des pédagogies, si vous voulez, c'est peut-être le rassemblement des chefs d'État, peut-être les discours, mais ça n'est pas ça. En tout cas, personnellement, ce que j'ai vécu, notamment chargé, si vous voulez, sur TF1 de couvrir le 50e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau, c'est le voyage, c'est physiquement aller voir comment ça s'est passé et comment une machine mise au point par des hommes, en l'occurrence évidemment des nazis allemands, appuyé quand même par la grande majorité du peuple allemand, il faut toujours se le rappeler, ont exterminé. Quand vous arrivez à Birkenau, plus qu'à Auschwitz, c'était l'état-major du camp qui était là-bas. À Birkenau, c'est là où, si vous voulez, la machine exterminée, d'abord gazée et ensuite brûlée. Eh bien, c'est pratiquement intact, illustré par des photos. Vous avez le portique du train qui arrivait. Il faut se souvenir quand même que 40 000 juifs hongrois ont été gazés et brûlés quasiment en septembre, octobre, novembre 1944, c'est-à-dire trois mois après le débarquement de Normandie. Les Américains n'étaient pas encore là et les Russes aussi. Et physiquement, vous avez des photos où vous voyez le Mengele, le fameux docteur Mengele, qui fait le tri avec la baguette. Et là, vous comprenez, et au bout de l'allée centrale, les fours crématoires qui ont été explosés par Rudolf Höss, qui était le dirigeant du camp. Et là, vous prenez conscience du martyr, si vous voulez, de tous ces gens qui ont été, qui arrivaient, femmes, enfants, tous les enfants, quasiment, et les adultes, bien sûr.
La nécessité d'être sur place, au-delà de la communication, au-delà de tous les mots et de toutes les cérémonies, Michaël Darmon.
Oui, il faut aussi noter que parmi les chefs d'État qui se sont exprimés, il n'y en avait qu'un petit nombre qui était amené à pouvoir parler. Et parmi eux, il y a eu le président français, ce qui était quand même une marque, on va dire, de distinction pour le président français, Emmanuel Macron, dans cette cérémonie. Ce qui est également frappant, c'est à quel point il y a cette modernité, je dirais, cette actualité toujours entretenu notamment par le chef du gouvernement israélien de cet événement horrible qui a été donc l'extermination des juifs en Europe et son impact, puisqu'il veut aussi toujours justifier la politique qu'il mène actuellement, notamment contre l'Iran, en disant nous sommes toujours à la veille d'une extermination, nous sommes toujours au fond en danger. Ce qui est paradoxal, puisqu'on sait que Israël est quand même un pays qui possède l'arme nucléaire et qui aujourd'hui est fort, qui est considéré comme fort dans la région, mais il y a quand même cette phraséologie toujours de l'extermination qui peut arriver et qui parfois est un peu instrumentalisée sur le plan politique.
Alors c'est ce que Emmanuel Macron a laissé entendre très clairement. En fait, un double discours encore aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Typiquement, le en même temps, on décrypte ça dans une seconde.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix et vos interventions en direct. N'hésitez pas à poser vos questions, ça se passe au 39-21 avec autour de vous Nathalie Lévy, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Mickaël Darmon.
Et à Jérusalem, une commémoration de la Shoah avec le dossier iranien en arrière-plan. On a parlé du devoir de mémoire dans cette première partie, on a commencé à évoquer cet arrière-plan, donc le dossier iranien, parce que Benjamin Netanyahou a pris la parole. La menace nazie, Mickaël Darmon le disait, la menace nazie d'antan porte aujourd'hui un autre nom, celui de l'Iran. Et Emmanuel Macron a fait un discours en deux temps, en rappelant aussi la menace iranienne, mais aussi en précisant bien qu'il ne s'agissait pas de convoquer ces morts pour justifier quelques divisions ou quelques haines contemporaines, car tous ceux qui sont tombés nous obligent à la vérité, entre autres.
Oui.
Alors, mais Charles Villeneuve, allons-y.
Oui, mais il a dit aussi, à l'adresse de ceux qui doutent beaucoup de la fermeté de la France sur le dossier iranien, et leurs efforts pour se doter de l'arme atomique, il a dit « nous serons intraitables », parlant de la France, « sur le nucléaire iranien, la France est attachée à ce que l'Iran n'acquiert jamais l'arme nucléaire et aussi à éviter toute escalade militaire, où que ce soit dans la région ». Bon, ça rejoint ce que la date, la partie du discours,
ah oui,
justement, où il critique. Pourquoi ? Parce que la France s'est mise en avant, si vous voulez, sur le plan de la négociation avec l'Iran pour essayer de les ramener dans ce que prévoit l'accord nucléaire de 2015. Et évidemment, on sait que ça a échoué pour l'instant, mais lui, si vous voulez, considère qu'il faut y revenir et ne pas aller provoquer les Iraniens, dont certains ont déclaré qu'un jour ou l'autre, l'Iran réduirait en cendres Israël.
Donc, on voit, enfin on entend, Catherine Ney, ce discours, et vous l'avez dit Charles, d'une certaine manière en deux temps de la part d'Emmanuel Macron, avec une première lecture et une deuxième.
Ben, sa première lecture, enfin la deuxième lecture, c'est que c'est une réponse au discours de Netanyahou
et de Mike Pence aussi.
Et de Mike Pence et des Américains qui se sont retirés de l'accord nucléaire en 2018. Et c'est vrai qu'il y a une pression de Netanyahou pour que les signataires de l'accord avec l'Iran se retirent et fassent de même. Or, pour l'instant, les Européens soulignent la nécessité de respecter l'accord sur le nucléaire iranien. Donc, il y a une vraie différence parce que alors, les Israéliens sont persuadés qu'un jour, l'Iran aura l'arme nucléaire et qu'il pourrait l'anéantir et que s'il y avait un nouvel holocauste, il ne pourrait devenir que de l'Iran.
C'est ça.
Ce dont les Américains sont persuadés. Par exemple, ce que croit aussi le président Trump, et c'est pour ça qu'il a multiplié les sanctions. Bon.
Voilà.
Mais si on entre là dans cette... Il n'y a pas de paix possible, il faut aussi arriver à négocier avec les Iraniens, est-ce qu'il est possible de ramener une paix au moins en parole en ce moment avec les Iraniens, dont c'est ce que
les
je cherche.
Les empêcher de nouveau se mettre en capacité de se doter de l'arme nucléaire. Il faut se rappeler simplement,
un
petit mot de la doctrine Begin, c'est-à-dire personne dans la région ne doit détenir une arme nucléaire, sous-entendu, sauf nous. Bien sûr.
Pardonnez-moi, mais toujours en restant sur ce dossier, Emmanuel Macron qui dit, Mickaël Darmon, qu'il veut lutter davantage contre l'antisémitisme, on le disait en première partie, et qui souhaite un procès pour Sarah Halimi. C'est la première fois qu'il y a là, pour le coup, les mots formulés par le président de la République sur ce cas qui a beaucoup divisé, et qui a surtout beaucoup fait réagir.
Oui, il a rappelé ce matin, lorsqu'il s'était exprimé devant la communauté française, à Jérusalem, qu'il était le garant de l'indépendance de la justice en France et qu'il reconnaissait comme point très important, et il a souligné cela, qu'il avait été reconnu que c'était un acte à vocation antisémite. Ensuite, bien sûr, il se range du côté de ceux qui veulent un procès. Cette émotion, on le sait, a été extrêmement forte. La colère également. Et bien évidemment, une très grande sensibilisation sur ce sujet de la part des Israéliens. Ce qui est quand même frappant à la fin finalement de ce voyage très particulier, très hybride au fond, qui était ni un voyage politique, ni un voyage totalement d'État à la découverte de la situation israélo-palestinienne, c'est vrai que c'est le pourquoi de ce voyage. On sent bien que ça a été uniquement fait d'abord autour de la commémoration donc à Yad Vashem, et qu'ensuite on a raccroché de manière assez artificielle, et c'est un petit peu ce qui se dit dans les milieux diplomatiques ce soir et même du côté de l'Élysée, on a raccroché un peu des thématiques un peu habituelles avec les discours un peu classiques.
Mais est-ce que c'est pas habituel
du Quai d'Orsay?
Est-ce que c'est pas habituel dans
peut-être aurait-il mieux valu construire une vraie visite dédiée aux enjeux de la région, à la fois du côté israélien et palestinien. Mais là, cette mémoire, ce voyage de mémoire politique ou consacré à la politique de la mémoire laissera une marque hybride avec en plus l'happening de la vieille ville hier.
De la vieille ville.
Ouais, mais c'est l'occasion qui fait le larron.
On s'arrêtera sur cette partie aussi. Juste, je rappelle le procès pour le meurtre de Sarah Halimi, dont le suspect a été déclaré pénalement irresponsable et donc la volonté affichée par Emmanuel Macron quand même aujourd'hui. On se parle dans un instant, les grandes voix. On va aller sur les retraites, puisque demain, c'est en Conseil des ministres.
Le débat des grandes voix, c'est jusqu'à 19h dans votre grand journal du soir sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. Et ce soir autour de vous, Nathalie Lévy, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Mickaël Darmon.
On y est, le projet de loi retraite sera présenté au Conseil des ministres demain avant le rendez-vous au Parlement début février et conférence de financement lancée le 30 janvier. Édouard Philippe l'a dit ce soir à La Croix, on est au 47e jour de grève sur le terrain et on a Frédéric qui nous appelle de Béziers. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Nathalie, bonsoir les grandes voix.
Bonsoir. On vous écoute.
Oui, ben je suis assez dubitatif en fait par rapport à tout ce qui s'est passé depuis que cette réforme a été annoncée. Je pense franchement qu'on a redéfini le terme d'enfumage à grande échelle.
Ah bien.
Clairement. Oui, je pense sincèrement. Je me suis beaucoup intéressé à ça parce que je suis cadre moi-même. Et donc je me rends compte qu'on se fait tous arnaquer. Et en plus, ils le font avec le sourire. C'est-à-dire que j'ai un peu travaillé le sujet parce que je suis un peu curieux. Et en fait, je me rends compte que, comme certains intervenants disaient, c'est bâclé. Enfin, il y a une espèce d'amateurisme. C'est mauvaise communication, mauvaise préparation. Le budget n'est pas bouclé. Alors on vous pond une conférence de financement qui ne donnera rien, puisqu'en fait, on finit par se dire que c'est déjà fait, finalement. Et ce qui, moi, me choque particulièrement, finalement, c'est cette histoire avec les hauts salaires. Je me suis intéressé au sujet et je me rends compte qu'on se fait arnaquer.
Eh ben voilà.
Totalement.
Au global, vous êtes, Frédéric, donc clairement contre, clairement déçu et clairement encore, j'allais dire, sur votre faim quant au détail, quant à la valeur du point, par exemple. Ça pourrait être le béaba, la valeur du point, on ne sait toujours pas. Les baisses de cotisations, on ne sait pas vraiment non plus, Catherine Ney.
Comment on peut s'engager sur la valeur du point d'ici 10 ou 20 ans, quand on ne saura pas dans quel état est l'économie de la France, la croissance, comment peut-on prendre un engagement? Ça vaut rien, quoi. Non, mais je crois que là, ce que dit notre auditeur,
Frédéric,
est très intéressant, qui correspond tout à fait au sondage actuel, qui est qu'aujourd'hui, 61% des Français sont pour le retrait de la réforme. Parce que chacun a des degrés divers, n'est pas rassuré par la réforme, pense qu'elle a été mal expliquée, mal bâtie, que c'était une idée comme ça du président de faire une réforme que n'auraient pas fait les autres, donc qu'il serait plus fort que les autres. Et on s'aperçoit que toucher à ça, d'ailleurs, c'était à chaque fois Rocard disait, mais on a de quoi faire battre et tuer et faire tomber je ne sais pas combien de gouvernements. Mais là, en ce moment, voilà, on se demande comment ça va se terminer, parce que là, on a l'impression que la contestation ne s'apaise pas du tout.
C'est ce qu'on disait Charles il y a quelques jours. Ça se transforme, ça évolue, ça mute. Oui. C'est parfois une forme de guérilla urbaine. Il y a des coupures de courant comme ça, sauvages, etc.
Et puis il y a de la créativité. Les avocats jettent leurs robes.
Nouvelle mobilisation, 7e samedi.
Oui, voilà. Et puis les égoutiers leurs bottes, les pompiers font du sitting par terre. Enfin, je veux dire, on n'a jamais vu ça. C'est une espèce de généralisation de l'hostilité à la réforme. Alors comment on arrive à calmer le jeu? Je veux dire, ça, personne ne le sait là.
Alors une minute chacun pour conclure, Charles et Mickaël.
Oui. Moi, je trouve que je ne sais pas si Frédéric fait partie de cette écrasante majorité des salariés du privé qui ne sont pas descendus dans la rue, qui n'ont pas fait grève, mais qui pour autant ont de la sympathie pour ceux qui ont fait grève et ceux qui protestent contre cette réforme qui pour l'instant n'est pas bouclée et elle est bâclée. En même temps, puisqu'on ne sait pas si sur le plan financier. Mais il y a une chose aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, ces salariés du privé, ils se demandent si finalement ça réussit, ben ça leur profitera. Si ça ne réussit pas, ben ils verront. Sauf qu'il y a la détermination du Premier ministre et du Président de la République. Et notamment qui ont relooké complètement l'âge d'équilibre à 64 ans avec cette fameuse conférence financière proposée par la CFDT. Mais on ne connaît pas la véritable marge de manœuvre de la CFDT.
Mais le problème, c'est quoi ? C'est Michaël Darmon, on n'était pas dans une négociation véritable depuis le début sur cette réforme des retraites. Qu'est-ce qu'elle va laisser comme trace ? Et est-ce qu'elles ne vont pas être profondes ? Ça va être des stigmates quand on regarde et quand on entend Charles Villeneuve, Catherine, et qu'on voit ce qui se joue encore.
Oui, d'ailleurs, il faut savoir qu'au gouvernement, on est assez conscient du fait que cette période va laisser des traces dans la société, que la société est encore en colère et que très certainement cela aura un impact sur les urnes, aux élections municipales. Même si on dit effectivement et on répète, et surtout du côté du pouvoir, que ce ne sont que des élections locales, elles donneront quand même la mesure de ce qui s'est passé. À côté de cela, le gouvernement tire une certaine... C'est vrai,
candidat
peut-être qu'il sera encore plus en difficulté, mais c'est vrai qu'à côté de cela, le gouvernement tire aussi une forme de satisfaction d'avoir tenu, d'avoir fait passer une réforme, d'avoir amené cette réforme quand même au Conseil des ministres. Et cela aussi,
On s'arrête là. Merci à vous. On suivra ça demain, Conseil des ministres. Et puis donc cette date du 30 pour la conférence de financement. Merci beaucoup les grandes voix. Merci à vous.
Europe 1.
Suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
C'est le journal de Sébastien Krebs. La une, l'inquiétude autour du coronavirus. Trois villes chinoises placées en quarantaine. Le point complet, c'est à suivre.
Jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy.
Europe 1.
Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez votre grand journal du soir. Nathalie Lévy, quel est le programme de la prochaine heure ?
Ou la programmation, c'est comme vous voulez.
Voilà, c'est un mix.
Allez, je vous dis tout. Aurélie Herbemont qui reçoit le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau. On parle donc de politique, on est à la veille de la présentation de la réforme des retraites au gouvernement, vous l'avez entendu. Et il répondra aussi à Ségolène Royal, elle était mon invitée tout à l'heure. Elle s'en est pris à Emmanuel Macron. Demain en France, demain dans le monde, c'est associé à notre sigle sur Europe 1. Écoutons Le Monde changer donc à 19h20, à 19h30 avec moi en studio. Alexandre Mars, l'entrepreneur philanthrope, le succès, les clés, il en a la recette et il les partage avec vous ce soir sur Europe 1.
Et vous pouvez bien sûr l'interpeller, poser toutes vos questions en direct au 39-21, n'hésitez pas, ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir. C'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Belle soirée à l'écoute d'Europe 1, il est 19h.
Tout le monde porte un masque, hein, c'est obligatoire à Wuhan. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, on garde quelques mètres de précaution.
Mesure drastique en Chine, 18 millions d'habitants à l'isolement. Et ce soir, le coronavirus fait une première victime loin du foyer de l'épidémie.
La France annonce un test de dépistage dans les hôpitaux.
Emmanuel Macron en Israël dit souhaiter un procès pour le meurtre de Sarah Halimi, tuée parce qu'elle était juive. Le suspect avait été jugé irresponsable.
Dans ce journal également, des explosifs retrouvés au domicile d'un homme radicalisé à Épinal.
Et puis, comment protéger ses données personnelles sur Internet ? Bientôt, nous aurons une identité numérique. Explication à la fin du journal.
Anissa, la météo avec vous ?
Ça tendance. Se calme demain dans les Pyrénées-Orientales et sur l'Aude. Attention, l'Aude reste en vigilance rouge, crue et inondation. Il pleut sur le sud-est. Partout ailleurs, c'est assez agréable. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Les experts français ont travaillé en un temps record. D'ici la semaine prochaine, le gouvernement annonce que la majeure partie des hôpitaux français auront à leur disposition un test permettant de diagnostiquer rapidement, en quelques heures, le coronavirus qui préoccupe bien au-delà des frontières de la Chine.
La Chine qui a pris des mesures drastiques justement pour tenter de contenir l'épidémie.
À Pékin, la cité interdite est fermée. Les festivités du Nouvel An chinois sont annulées. Aujourd'hui, pour la première fois, un malade est mort dans une province qui jouxte de la capitale, loin donc du berceau de l'épidémie, la ville de Wuhan, qui vit désormais à l'isolement, de même que sa voisine. 18 millions d'habitants coupés du monde, plus d'avions ni de trains, péage autoroutier fermé. Jean-Sébastien Soldaini a pu joindre sur place un médecin français, Philippe Klein.
Wuhan est coupé du monde, donc forcément la réaction des gens ici a changé et on voit l'inquiétude augmenter, et notamment tout simplement dans les rapports humains, puisque maintenant... Tout le monde porte un masque, hein, c'est obligatoire à Wuhan. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, on garde quelques mètres de précaution. On a tendance à vouloir se serrer la main de façon spontanée, mais on ne le fait pas, on se retient. La ville est calme. Il y a forcément une angoisse et un début de psychose, mais le propre de l'homme, c'est quand même l'instinct de survie, mais c'est aussi de positiver. Donc les gens continuent forcément de vivre. Ce matin, on est allé faire des courses en ayant appris la quarantaine. Alors les magasins, bien sûr, sont pris d'assaut. Les gens se posent des questions et font des réserves, mais il n'y a pas de mouvement de panique.
Témoignage recueilli par Jean-Sébastien Soldaini. Et ce soir, l'Organisation mondiale de la santé est toujours réunie sur cette question.
L'autre grand titre à la une ce soir, c'est l'émotion à Yad Vashem. Une quarantaine de chefs d'État réunis au mémorial de la Shoah à Jérusalem pour commémorer les 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau.
Vladimir Poutine, Benjamin Netanyahou, le vice-président américain Mike Pence, Emmanuel Macron aussi, qui a redit sa détermination à lutter contre l'antisémitisme et qui, un peu plus tôt, devant la communauté française, a commenté une décision de justice. Il a dit souhaiter un procès pour le meurtre de Sarah Halimi, tuée parce qu'elle était juive en 2017. Procès qui, à ce stade, n'aura pas lieu car le suspect a été jugé irresponsable. Écoutez le président de la République.
D'abord, que la justice française a reconnu le caractère antisémite de ce crime. Il est reconnu. Et ce caractère antisémite, personne ne peut le remettre en cause. Ensuite, la justice doit avoir un lieu. Et je sais la demande de procès qui doit se tenir. La question de la responsabilité pénale est l'affaire des juges. La question de l'antisémitisme est celle de la République. Mais ce que nous apprend ce qui vient de se passer, c'est que même si à la fin, le juge devait décider que la responsabilité pénale n'est pas là, le besoin de procès, lui, est là.
Emmanuel Macron en Israël, et ce soir, voici la réponse de Céline Parizeau de l'Union syndicale des magistrats.
Il n'appartient clairement pas au président de la République de se prononcer sur une procédure pénale en cours. La chambre de l'instruction, donc c'est-à-dire trois magistrats qui statuent ensemble après une audience, après avoir entendu les parties, les experts, a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'aller plus loin et de faire un procès dans cette affaire, dès lors que le suspect est pénalement irresponsable. Aujourd'hui, le président se permet finalement de critiquer cette décision, puisqu'il estime qu'il faut un procès. Ce n'est clairement pas son rôle. Le président de la République, dans l'organisation de nos institutions, est censé être le garant de l'indépendance de la justice et certainement pas lui donner des directives.
Céline Parizeau de l'USM, elle est la présidente de l'USM, le premier syndicat de magistrats.
En France, le retour des perturbations dans les transports, 7e journée d'action nationale, demain, au moment où la réforme des retraites arrive en Conseil des ministres.
Trafic perturbé à la RATP sur 12 lignes de métro, 60 à 70% des TER et transiliens sont maintenus, trafic normal sur le réseau TGV. Puis autre annonce ce soir, ce sera l'étape d'après, après le Conseil des ministres. La conférence de financement sur cette réforme des retraites commencera le 30 janvier, annonce d'Edouard Philippe ce soir dans un entretien donné au journal La Croix.
Dans le sud-ouest, les pluies de la tempête Gloria, eh bien, elles se déportent vers l'Hérault. La décrue est amorcée, vigilance rouge levée désormais dans les Pyrénées-Orientales.
Mais attention, elle est toutefois maintenue sur le département de l'Aude. Elle est levée ce soir à nouveau. Donc
à
cette
l'instant,
fois,
voilà. Comme ça,
l'Aude est en orange. Voilà.
Merci Anissa, on vous retrouve évidemment à la fin du journal pour la météo complète. De nouveaux éléments à présent dans l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin en 2003. Michel Fourniret demande à être considéré comme coupable, c'est ce qu'a dit le tueur en série lors de sa dernière audition fin novembre. Demain, son ex-épouse Monique Olivier, qui a fragilisé son alibi, on s'en souvient, doit être à nouveau interrogée.
Une découverte inquiétante à Épinal, maintenant dans les Vosges. Des explosifs ont été retrouvés au domicile d'un homme radicalisé.
Bonsoir Alain Acco.
Bonsoir.
Le parquet antiterroriste s'est saisi de cette enquête.
Oui, au départ, pourtant, il s'agissait d'une simple visite domiciliaire, ce qu'on appelait avant une perquisition administrative pour vérifier un vague signalement. Les policiers du renseignement territorial avaient entendu dire qu'un habitant d'Épinal s'était vanté il y a quelques semaines de savoir manipuler des explosifs. Or, cet homme de 48 ans est fiché S pour radicalisation. Il est connu depuis longtemps, notamment pour ses relations avec le groupuscule Force Analisa qui a été dissous en 2012. Il est sorti de prison il y a environ 6 mois et il était incarcéré dans une affaire de trafic de drogue. Quand les policiers du commissariat d'Épinal ont débarqué chez lui, le suspect n'était pas là. Il a été arrêté quelques heures plus tard sur son fauteuil roulant car il est handicapé. Sa compagne a aussi été placée en garde à vue car dans la cave de leur immeuble, on a trouvé des engins explosifs artisanaux prêts à l'emploi, nous dit-on. Le parquet national antiterroriste a donc confié l'enquête ce soir à la DGSI, à l'ASDAT et à la police judiciaire de Strasbourg.
Alain Acco, chef du service police-justice d'Europe 1, merci.
Comment protéger nos données personnelles sur Internet, hein ? Vous êtes nombreux à vous poser régulièrement la question, notamment lorsqu'on remplit toutes sortes de formulaires.
Bonsoir Aude Leroy. Une solution s'appelle l'identité numérique. D'ailleurs, le groupe La Poste est le premier à recevoir le feu vert de l'ANSSI, qui est l'autorité des systèmes d'information. C'est quoi cette identité numérique ? Et ça fonctionne comment ?
C'est assez simple, hein, parce qu'à la maison ou comme moi au bureau, vous vous préinscrivez sur le site de La Poste. Alors, il suffit d'un mail, d'un smartphone et d'une pièce d'identité. Ça prend à peu près 20 minutes. Et puis après, vous rencontrez physiquement un facteur, que ce soit chez vous ou dans un bureau de poste, comme ici avec Alassane Diallo, qui est postier ici les Moulineaux.
Je vais vous demander votre pièce d'identité.
Là, vous êtes sur votre propre smartphone.
Donc, nous, on utilise des smartphones pour finaliser l'identité numérique. On peut aussi le faire au guichet directement.
Alors désormais, je n'ai plus qu'un seul identifiant et un seul mot de passe pour me connecter sur aujourd'hui 700 sites administratifs, notamment payer mes impôts, suivre mes remboursements de sécurité sociale ou demain, pourquoi pas, inscrire mon enfant à l'école. Alors au final, on gagne plus de 5 minutes à chaque connexion, mais aussi on gagne de la mémoire, explique Candice Dauge, la directrice de l'identité numérique à La Poste.
À chaque fois, on crée un compte donc avec un identifiant, un mot de passe, on en a en moyenne 265. Et à chaque fois, on scanne des pièces et on réalise un certain nombre de démarches. Avec l'identité numérique, on saute à peu près 7 à 14 étapes dans son parcours d'inscription.
Et pour accéder donc au site internet qui vous intéresse, il suffit de télécharger l'application Identité numérique sur votre smartphone.
Voilà, comme ça, il n'y a plus qu'un mot de passe tout, fait tout avec.
Exactement,
bon, faut pas le perdre,
vous avez
faut
testé, on a tous les éléments. Merci.
Non, mais il n'y en a plus qu'un souvenir. Donc c'est bon.
Merci,
c'est
les précisions d'Aude Leroy. Merci beaucoup.
Merci Sébastien Krebs. L'info revient 19h30 avec vous, Anissa, du côté du temps. On est au taux sec presque partout demain.
Alors, presque partout, effectivement. Et puis là, c'est une bonne nouvelle que nous venons d'apprendre il y a quelques instants. Effectivement, le département de l'Aude vient de passer en vigilance orange, crue et inondation. La décrue est amorcée également dans les Pyrénées-Orientales. Alors vous le disiez, un temps sec presque partout. Parce que demain, c'est au sud-est cette fois-ci. Du Languedoc-Roussillon jusqu'à la Côte d'Azur, c'est là qu'il va pleuvoir demain, sur la Corse également. Des pluies beaucoup moins intenses que ces derniers jours sur les Pyrénées-Orientales. Des pluies qui vont s'étendre dans l'après-midi jusqu'à la vallée du Rhône et l'Auvergne. Sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales, le temps redevient sec. Pas de pluie, enfin. Demain, à l'ouest, sur le Poitou-Charentes, sur les Pays de la Loire, sur les Deux-Sèvres, là aussi, il pleut. Des pluies qui vont baisser en intensité au fil des heures. Et partout ailleurs, c'est un temps sec, un vrai temps sec d'hiver, c'est-à-dire des nuages, quelques éclaircies et surtout des températures froides. Moins 4 à Belfort, Épinal et Nancy, moins 1 à Lyon, 0 pour Paris demain matin, 6 à Toulouse et Bordeaux.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy.
Bonsoir Aurélie Herbemont.
Bonsoir Nathalie.
L'interview politique avec vous et ce soir votre invité ?
Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement. La réforme des retraites arrive demain au Conseil des ministres. Réforme très critiquée à votre micro par Ségolène Royal. Il lui répondra.
Et l'interview politique d'Aurélie Herbemont, c'est dans un instant dans votre grand journal du soir sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec l'interview politique Nathalie Lévy.
Et Aurélie Herbemont, ce soir votre invité dans ce studio, Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement.
Bonsoir Marc Fesneau.
Bonsoir.
Ségolène Royal était tout à l'heure sur Europe 1, elle a été très critique avec Emmanuel Macron. Elle dénonce le choix de la radicalisation, le déficit démocratique, on n'a pas voté pour ça. En fait, l'exécutif a lancé sa candidature pour 2022 en lui disant de choisir entre la politique et son poste d'ambassadrice.
Je crois qu'elle l'a lancé toute seule. Avant d'avoir peut-être un avenir et un futur politique, Madame Royal, elle a aussi un passé politique. Mm-hmm. C'est surtout ça que je retiens, parce que j'aurais aimé que d'abord qu'elle utilise son temps de parole. Elle est très présente dans les médias, et je n'en fais pas grief, c'est sa liberté de parole. J'aurais aimé qu'elle l'utilise dans le poste dans lequel elle était ambassadrice au pôle, où elle aurait pu sensibiliser le gouvernement, sensibiliser les citoyens à la question du réchauffement climatique. Et par ailleurs, je n'ai pas oublié que Ségolène Royal a été ministre d'un gouvernement dans le précédent quinquennat, qu'elle avait fait de très larges promesses en termes de développement durable, en termes d'environnement. Elle a beaucoup annoncé qu'elle fermait Fessenheim, qu'on avançait sur les centrales à charbon. Mmh. La vérité, c'est qu'à la fin du quinquennat, rien n'avait été fait. Et que c'est ce gouvernement qui a pris un certain nombre de mesures en matière environnementale. Je n'oublie pas non plus que Mme Royal, quand elle a laissé la région Poitou-Charentes, elle l'a laissée avec une dette et un déficit très profond. Une dette, pour être précis, très profond. Vous en parlerez au président Rousset, qui est désormais président de cette région. Et donc, avant de se dessiner un avenir, je pense qu'il y a une responsabilité. Je pense que les hommes et les femmes publics, ils doivent être jugés aussi sur leurs actes. plus que sur leurs mots. Et donc, j'inviterai volontiers à un peu de prudence dans les mots qu'elle choisit aujourd'hui à l'endroit du gouvernement et en général.
En tout cas, la riposte semble prête.
Non, mais écoutez, il y a longtemps que j'avais envie de dire quelque chose de cet ordre-là, parce qu'il y a longtemps que je suis témoin, y compris comme élu local, des mots et des actes qui n'étaient pas en face. C'est valable pour Madame Royal, comme pour un certain nombre de responsables publics, c'est sans donner de leçons, mais à ce moment-là, il ne faut pas donner de leçons.
Elle donne trop de leçons, là, vous
elle
trouvez.
Elle est assez dans une configuration ou de victimisation. Et après tout, elle a une liberté de parole, c'est son droit. Et moi, je le respecte tout à fait profondément. Elle a le droit d'être dans l'opposition. Mais en même temps, il ne faut pas se mettre en position de donner des leçons quand on est quand même comptable de la situation du pays, parce qu'elle a été longtemps membre de gouvernements successifs qui n'ont pas résolu un certain nombre de questions qu'on essaie de résoudre aujourd'hui.
Alors, Ségolène Royal est aussi très critique sur la réforme des retraites. Improvisation, tâtonnement, hésitation, choix ultralibéral, chantier qu'il est imprudent d'avoir lancé alors que le problème des gilets jaunes n'était toujours pas résolu. Qu'est-ce que vous lui répondez là
encore ? Tout ça, c'est des mots. Ce qui est, moi, je crois, utile désormais dans le débat, c'est que le texte sera délibéré demain au Conseil des ministres, qu'une étude d'impact sera fournie, que les parlementaires et la société, au fond, vont pouvoir se saisir du texte et qu'on aille au fond du sujet et qu'on aille au fond des avancées que porte ce texte et du projet que nous portons de réforme assez profonde. Alors ça crée des conflictualités, je comprends que ça crée des conflictualités, je comprends y compris que ça puisse créer des inquiétudes, mais le débat parlementaire, le débat démocratique, quand on ne le caricature pas, je pense qu'il permet d'avancer et d'éclairer les choses. Et on peut ne pas être d'accord avec nous, mais je pense que le débat démocratique, il permet d'éclairer les choses.
Ségolène Royal, caricature ?
Ah, mais dans les mots que vous venez d'employer... si ce n'est pas de la caricature, je ne sais plus ce que c'est qu'une caricature.
Alors, Ségolène Royal, vous dites elle caricature la réforme des retraites, mais elle est loin, très loin d'être la seule opposante à ce texte. Demain, il y a une nouvelle manifestation, jour de l'examen, de la présentation en Conseil des ministres de la réforme. Nouvelle manifestation, nouvelle grève dans les transports, une opération port mort, des coupures de courant de la CGT qu'on voit beaucoup se multiplier ces derniers jours. Rien de tout ça ne vous fera reculer ?
Mais ce n'est pas la question de reculer. Je pense que le projet de réforme que nous portons est un projet de profonde transformation et de justice.
Tout le monde ne le comprend pas, visiblement.
Mais je ne disconviens pas de la difficulté qu'il y a parfois à, d'abord, analyser le système et ses injustices actuelles, et au fond, donner la cible qui est la nôtre à l'horizon de la mise en application de ce texte. Et donc, on a un travail de pédagogie, et le débat parlementaire, il sert à ça. Et le moment qu'on va ouvrir, désormais, il va servir à poser les choses, à donner notre projet, et puis que ceux qui sont dans l'opposition et qui ne partagent pas notre vision, disent quelle est leur vision à eux, comment on améliore le système. Et nous, la façon dont on aborde les choses, c'est un système universel par points, et c'est ce qui nous paraît le plus important.
Et certains, ils restent opposés, vous dites faire de la pédagogie, mais je pense que certains opposants
je suis un modéré par nature, et donc j'aimerais que tout le monde soit d'accord avec ce que je pense. Je peux comprendre que des gens ne soient pas d'accord avec nous. L'important, c'est que les citoyens qui nous écoutent et les citoyens qui vont assister à ces débats, ils puissent voir librement et puis juger librement des apports de ce texte et de la façon dont on va progresser sur ce texte.
Vous espérez que demain, ce sera un baroud d'honneur de la contestation ou vous redoutez que ça puisse durer encore un peu ?
Mais c'est ni redouter ni espérer. Demain, les organisations, un certain nombre d'organisations syndicales ont fait le choix d'une mobilisation, pas toutes, reconnaissons-le aussi.
Bien sûr.
C'est normal, c'est légitime, nous sommes en démocratie, des gens expriment des inquiétudes ou un refus. Très bien, ça n'empêche que le texte que nous portons, pardon de le répéter, est un texte pour moi et pour nous collectivement qui porte des tas d'espoir en termes de justice. Et d'ailleurs, les éléments qui sont parus dans la presse sur l'étude d'impact montrent ça. Et donc c'est ça qui permettra d'éclairer le débat et je l'espère aussi d'apaiser le débat.
Alors demain, ce sera en Conseil des ministres. Oui. Après, ça partira au Parlement. En parallèle, il y aura la conférence de financement qui doit rendre ses conclusions d'ici fin avril. Ça veut dire qu'en attendant, les députés puis les sénateurs vont étudier une réforme dont ils ne connaîtront pas le financement. Est-ce que c'est bien respectueux des parlementaires ?
Ça n'est pas exact. Les parlementaires se saisiront d'une réforme universelle par points et par répartition dont on connaît le financement, puisqu'il est posé dans le texte. Ce qui va être mis en débat dans la conférence du financement, et c'est d'ailleurs l'objet de l'échange qu'il y a eu avec les organisations syndicales, qui partagent notre sentiment qu'il faut faire un système de cette nature, c'est l'idée que la mise à l'équilibre du système actuel faisait l'objet d'une concertation au travers de cette conférence du financement. Et donc, c'est deux sujets qui sont distincts.
Mais vous ne craignez pas que l'opposition s'en serve quand
non,
même
ça, il ne m'a pas échappé que l'opposition allait s'en servir, mais au moins qu'on essaie de parler des faits et rien que des faits. Nous parlerons du système, l'important c'est le système auquel on va aboutir. Et par ailleurs, on confie à la conférence du financement la façon de piloter le système au bout, mais aussi la manière de mettre à l'équilibre le système actuel. Et donc, ce n'est qu'une part du sujet qui sera posé, et l'essentiel du sujet, c'est-à-dire comment fonctionne cette retraite à points universels, sera dans le texte.
Donc si l'opposition vous mène la vie dure, ce sera juste de la mauvaise foi, selon vous.
Vous ne m'avez pas entendu caricaturer comme ça. Il y a légitimement des gens dans l'opposition. Moi, je suis ministre des Relations avec le Parlement et je veille toujours, au-delà de mon poste de ministre des Relations avec le Parlement, à faire en sorte de respecter les droits et la parole de l'opposition. Mais il y a des gens de l'opposition qui sont radicalement opposés à ce texte. Mais je pense que de bonne foi, ils pourront distinguer ce qui relève de la conférence du financement et ce qui relève du débat parlementaire au démarrage.
Alors, un dernier mot concernant les municipales à Biarritz. Vous avez deux collègues
sur les rangs. Vous aussi, vous passionnez pour Biarritz.
Mais au gouvernement, c'est un sujet qui passionne. Deux ministres candidats, Didier Guillaume, qui souhaite être maire, Jean-Baptiste Lemoyne, qui veut figurer sur la liste du maire sortant, Modem, je le précise, comme vous, Michel Venac.
Michel Venac, ouais.
Quand est-ce que cette situation baroque, de l'aveu même du Premier ministre, va être tranchée?
Mais le Premier ministre a dit les choses très clairement. Il a dit que la situation, effectivement, était baroque et qu'il donnait quelques jours... Didier Guillaume et Jean-Baptiste Lemoyne pour clarifier les situations et regarder comment ils évoluaient dans le cas des municipales à Biarritz. Quelques jours, nous y sommes et donc dans quelques jours...
Vous soutenez, j'imagine, Michel Venac qui est Modem
navigue,
et donc Jean-Baptiste Lemoyne contre
Didier dans la vie avec des idées assez simples
et
des concepts assez simples. C'est l'idée de la fidélité aux gens qui se sont engagés autour de nous. Michel Venac est un adhérent du Modem, il en a été un des piliers, il est maire désormais de Biarritz, il est sortant, il se représente, et donc nous soutenons Michel Venac, c'est aussi simple que ça.
Et alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir les deux ministres du gouvernement, un seul?
Nous n'allons pas dans les conjectures, le Premier ministre a posé les termes du débat, et nous verrons quand les termes du débat seront terminés.
En tout cas, ça ne peut pas durer, c'est aussi ce que vous
nous dites.
Bien
évidemment.
Merci beaucoup Marc Fesneau d'avoir été mon invité.
Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. La suite du programme, Nathalie Lévy.
Restez absolument avec nous ce soir plus encore. Alexandre Mars, l'entrepreneur philanthrope, va me rejoindre dans ce studio. On va parler ensemble d'entrepreneuriat. Évidemment, ce soir, lui, il a les clés. Comment réussir son projet? On lui pose la question. Il a les recettes, il nous les livre là, dans ce studio. Ose, tout le monde peut devenir entrepreneur. C'est publié chez Flammarion, c'est un carton. On va l'écouter attentivement, n'est-ce pas?
Votre grand journal du soir, c'est avec Nathalie Lévy, tous les jours jusqu'à 20h.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 et tous les jours avant 19h30. On prend un temps d'avance et on regarde ce qui se passe demain, Nathalie.
Demain en France d'abord, au plus près de vous, avec Jean-Luc Boujon à Lyon. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
C'est donc demain après-midi, hein, Jean-Luc, que le restaurant...
Demain midi,
précisément, que le restaurant Paul Bocuse des Collonges au Mont-d'Or ouvre ses portes après un mois de travaux et une semaine surtout après la perte de sa troisième étoile au guide Michelin. On en a beaucoup parlé, alors Jean-Luc, des attentes, bien sûr.
Oui, alors c'est une perte qui a été douloureusement ressentie en interne. Hein, rendez-vous compte, 55 ans de 3 étoiles et puis tout d'un coup le déclassement. D'ailleurs, il y a une semaine, aucun membre du restaurant n'avait souhaité s'exprimer tant le coup avait été rude. Mais aujourd'hui, eh bien, changement de décor, j'y suis allé tout à l'heure. D'abord parce qu'une partie du restaurant, les salles du haut, a fait peau neuve, comme un nouveau départ. Et puis surtout, la mauvaise nouvelle a été digérée. Fini la soupe à la grimace. C'est au contraire le retour de la soupe aux truffes VGE et de toutes les autres recettes qu'ont fait la réputation de Bocuse, la volaille en vessie ou le lièvre à la royale. Toute l'équipe conduite par le chef Gilles Reynard est prête au combat pour aller reconquérir cette troisième étoile.
On est touché, mais pas coulé. On va rebondir et puis on est prêt à se battre. On a retravaillé un peu les plats emblématiques de la maison sans non plus bousculer les codes et c'est ce que les gens y veulent.
Et comment on fait? Parce qu'il y a des plats mythiques, on ne peut pas y toucher à
bien
ça.
Bien sûr, ben si, la sole Fernand-Pont, on a évolué un peu, on a un peu plus abouti. La quenelle, on l'a fait différemment. La soupe de moule, on l'a fait différemment. Et je pense que ça va aussi amener un vrai nouveau souffle.
Et voilà, on a pris un coup sur la tête, mais c'est reparti. Donc réouverture demain midi, on sera au rendez-vous. Jean-Luc, on va surtout vous. Est-ce qu'on craint malgré tout un contre-coup économique pour l'auberge du Pont de Collonges?
C'est vrai que la question se pose ou va se poser, mais rien ne l'indique pour l'instant. C'est complet pour demain et déjà pour les 6 prochaines semaines.
Oui, bah oui.
Donc pour le moment, on n'est pas plus inquiet que ça chez Bocuse. Les clients apparemment sont toujours là.
Mais oui, c'est ça les valeurs sûres. Merci beaucoup Jean-Luc Boujon, vous nous livrerez le détail. Après
si
coup,
voulez,
demain.
Oui.
Merci
ah oui,
à vous.
Je vous ferai envie, pas de problème.
Demain dans le monde, on s'éloigne un petit peu avec Didier François chaque soir également. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
L'actualité marquée par ce rassemblement annuel organisé à Washington par les anti-avortements qui ont obtenu quand même que Donald Trump soit présent.
Oui.
C'est pas rien. C'est même la première fois qu'un président américain sera comme ça dans le cortège.
Effectivement. Alors Donald Trump a toujours fortement soutenu ce mouvement.
Surprise,
l'an dernier, par exemple, il avait enregistré un message vidéo qui a été projeté sur un écran géant à la fin de la manifestation. Mais oui, cette année, il viendra soutenir les marcheurs en personne. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la Maison-Blanche sur son compte Twitter, ce qui est un geste symbolique fort, mais c'est surtout une étape supplémentaire qui s'inscrit dans une véritable stratégie dont le but ultime est d'obtenir l'abrogation du fameux amendement Roe contre Wade, qui est l'arrêt de la Cour suprême qui avait été adopté en 73, légalisant aux États-Unis l'interruption volontaire de grossesse. Pour faire simple, c'est un peu la loi Veil américaine contre laquelle Donald Trump mène depuis toujours une bataille extrêmement virulente et parfaitement coordonné, puisqu'il a poussé plusieurs États conservateurs à adopter des lois très restrictives sur les conditions d'accès à l'IVG, qui remettent donc en cause la législation fédérale, justement dans l'objectif de provoquer une bataille juridique, dans la mesure où les différents recours qui ont été déposés vont finir devant la Cour suprême. Mais ce qu'il a fait entre-temps, c'est que depuis son élection à la Maison-Blanche, eh bien, Donald Trump avait basculé la majorité au sein de cette Cour en nommant deux nouveaux juges qui sont farouchement opposés à l'avortement.
Ah oui, alors le droit à l'avortement qui recule sous Trump, c'est pas tout à fait un hasard. Il y a une élection. Exactement. Au bout du chemin, dans moins de 10 mois maintenant.
Voilà, c'est ça, on entre dans l'année électorale et le président brigue un second mandat. La bataille contre l'avortement est un marqueur extrêmement fort qui mobilise le socle conservateur et religieux de sa base électorale, et on est clairement parti pour une campagne très idéologique, avec des positions sans concession, en tout cas dans le camp présidentiel.
Il y a 2 ans, le message vidéo, vendredi, oui c'est ça, il marchera avec eux. Qu'est-ce que ce sera dans 2 ans? Merci beaucoup Didier François. Théophile Cossa, demain dans nos vies, c'est chaque soir avec vous. Alors, on est de plus en plus accro aux écrans, à nos smartphones. Mmh. C'est vrai pour vous, pour moi, pour tout le monde. Vous venez ce soir avec quelque chose qui va nous aider à décrocher ?
Oui. Enfin, vous allez voir, pas si vite. Anissa, Nathalie, oui. Est-ce que vous savez déjà combien de temps on passe en moyenne par jour sur notre téléphone ?
2 heures.
2h15. Bien vu. Ouais. En France, en 2019, on a passé en moyenne 2h15 par jour sur notre téléphone. Pour les jeunes, c'est près de 4 heures par jour.
Mais donc,
rassurez-vous, pour nous aider à décrocher, Google a eu une idée de génie. Glisser nos téléphones dans des enveloppes en papier.
Merci Google, en fait, non ?
L'idée, c'est, vous allez voir, c'est une grande blague. L'idée, c'est de nous permettre de transformer momentanément nos smartphones en dumbphones, en téléphone idiot, sans écran, sans internet. Pour ça, Google a imaginé une enveloppe en papier à construire soi-même, comme un emballage cadeau qui va envelopper en fait votre téléphone. C'est tout bête. Vous imprimez chez vous le kit que je montre là pour construire votre téléphone. Pour construire votre enveloppe. Mm-hmm. Vous découpez, vous collez, vous emballez votre téléphone et le tour est joué. Alors vous allez me dire, le téléphone est inutilisable sauf que sur l'enveloppe sont dessinées, vous voyez, des petites touches qui vont se superposer à votre écran tactile pour vous permettre quand même de composer un numéro ou décrocher si quelqu'un vous appelle.
Enfin, pardon, c'est un peu décalé, non, quand même, comme initiative.
C'est complètement décalé, mais figurez-vous que c'est pour le bien-être numérique. Ça devient désormais un argument marketing majeur, en fait, pour les géants de la tech. Vous savez, on les accuse de nous rendre addicts, de tout faire pour nous maintenir le nez collé à notre écran. Du coup, Google contre-attaque, et vous voyez, Nathalie, ils ont détaché leurs meilleurs ingénieurs pour travailler sur le sujet. Si vous voulez mon avis, on n'est pas prêt de lâcher nos téléphones.
Ouais, c'est ça. Franchement, opération pas super réussie. Merci beaucoup Théo.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy. Un entrepreneur à succès, Alexandre Mars, il arrive dans ce studio. Ose, on va oser avec lui.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h.
Europe 1.
19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Sébastien Krebs pour le rappel des titres.
Il est trop tôt pour déclarer une urgence internationale sur le coronavirus chinois, estime ce soir l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Conclusion de 2 jours de réunion. En France, le gouvernement annonce un test de dépistage à disposition des hôpitaux dès la semaine prochaine. Combien seront-ils dans la rue? 7e journée d'action nationale demain, au moment où la réforme des retraites sera présentée en Conseil des ministres. Les syndicats veulent un vendredi noir dans les transports. Le trafic sera toutefois normal sur les TGV. 60 à 70% des TER sont maintenus, annonce la SNCF. Et puis à Paris, des perturbations annoncées sur 12 lignes de métro. Toutes les infos sur europe1.fr. À retenir également le dossier iranien en arrière-plan des commémorations de la Shoah à Jérusalem. La Shoah qui ne peut pas être utilisée pour justifier la division ou la haine contemporaine, a dit Emmanuel Macron. Le Brexit sur les rails, il aura lieu vendredi soir prochain à minuit. La reine Elisabeth II a promulgué le texte d'accord aujourd'hui. Et puis le naufrage du tennis français, 18 joueurs au départ, un seul au 3e tour de l'Open d'Australie. Gaël Monfils, dernier escapé.
Merci beaucoup Sébastien Krebs. Demain avec vous dès 18h.
À demain.
Pour de nouvelles infos, Anissa. Où est-ce qu'il pleut demain?
Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne pleut plus demain sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude. C'est vrai que nous avons eu plus de 3 mois de pluie depuis lundi sur ces deux départements qui, je vous le rappelle, sont toujours placés en vigilance orange, crue et inondation.
En revanche, il pleut au sud-est, du Languedoc-Roussillon jusqu'à la Côte d'Azur et en Corse. Demain, des pluies bien plus modérées que ces derniers jours. Et puis à l'ouest, sur le Poitou-Charentes, sur les Deux-Sèvres, sur les Pays de la Loire, vous aurez de la pluie demain au lever du jour. Et puis au fil des heures, ces pluies deviendront de plus en plus modérées et laisseront même place à quelques éclaircies. Partout ailleurs, c'est un temps sec, parfois nuageux. Et à l'est, ce sont de belles éclaircies au programme pour vous. Les températures demain après-midi, 3 à 17 degrés, 3 à Amiens, 17 à Ajaccio et seulement 6 petits degrés pour Paris.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec votre invité. Et avec lui, on va entreprendre ce soir.
On va entreprendre, on va oser rester avec nous parce que Alexandre Mars est dans ce studio ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Dans une seconde, je vous donne la parole. Vous allez tout nous dire pour entreprendre. Donc oui, on démarre tout de suite et on est ensemble effectivement jusqu'à 20h avec les questions des auditeurs au 39-21. Bienvenue Alexandre Mars.
Merci Nathalie de me recevoir.
Merci à vous. Ça vient de sortir, c'est aux éditions Flammarion. Pour tout savoir, pour tout comprendre et surtout pour réussir dans le monde de l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur du numérique et vous avez travaillé énormément, on va en parler dans un instant, et vous avez réussi. Votre livre s'appelle Ose, et vous, qu'avez-vous osé, j'ai envie de dire, pour devenir l'entrepreneur que vous êtes aujourd'hui?
J'ai tenté. Donc la première chose, moi, une de mes phrases préférées, ou c'est ma phrase préférée, c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance. Alors, je ne l'ai pas inventé, hein, parce que pour ceux qui ont plus de 40 ans, ils savent que c'était la Française des Jeux, enfin la Loterie Nationale à l'époque. Mais j'ai toujours aimé cette phrase. Et je pense que c'est vraiment ça. Il faut au bout d'un moment se lancer, tenter, tester. Et parfois, l'échec... oui, bien sûr, l'échec est un prémisse à un succès la plupart du temps. Mais il ne faut surtout pas avoir ses remords. Le nombre de personnes qui peuvent venir me voir en disant « je vais le faire, demain, après-demain, mais j'attends quelque chose ». Et souvent, ils attendent l'idée. L'idée, elle n'existe pas.
L'idée, la bonne idée, vous voulez dire ?
Non, la grande idée.
La grande idée.
Bonne idée, elle existe. Il y en a partout autour de nous. Ouais. Mais
si on n'a pas la grande idée, comment on fait ?
La bonne idée suffit.
La bonne idée suffit ?
Bien sûr. La grande idée, c'est vous dire je vais faire quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe pas ailleurs. Un entrepreneur n'est pas forcément un inventeur.
Donc on peut y aller, même si on a une idée, j'allais dire, moyenne. Mais on peut se lancer ?
Ah, c'est pas ce que j'ai dit. La bonne idée n'est pas la moyenne idée.
C'est subtil. Hein.
Oui, non, c'est pas subtil. La grande idée, c'est je vais faire quelque chose qui n'existe pas. Je vais
avoir révolutionner, etc.
Eureka, je vais avoir la pomme qui va me tomber sur la tête. Ça ne fonctionne pas. La bonne idée, elle peut exister déjà ailleurs.
Ah bon ?
Bah oui.
Si elle existe déjà ailleurs, on y va quand même.
Mais surtout, la question qui est souvent posée, c'est est-ce que je me lance ? C'est génial, il n'y a personne sur le marché.
C'est ce que je veux dire. S'il n'y a personne sur le marché,
c'est peut-être qu'il y a une autre raison.
Ah oui, d'accord.
Donc, il y a sûrement que ça peut arriver. C'est la capacité parfois, c'est le déploiement. C'est votre capacité de mettre en œuvre, de regarder les choses un peu différemment. Si on prend l'exemple des trottinettes électriques, on en voit partout. Regardez, au même moment, à travers le monde, il y a eu combien ? 30, 40, 50 marques. Elles ne survivront pas toutes.
Est-ce qu'on fait une étude de marché approfondie, etc., où on se lance parce qu'on a l'envie, parce qu'on a cette capacité de travail, parce qu'on a l'idée ?
L'envie ne suffit pas. La capacité de travail est importante. Mais évidemment, faire une étude de marché est quand même utile. Si vous voulez vous lancer sur un marché où, globalement, il n'y a pas d'acheteurs, ça ne va pas fonctionner. Donc, en effet, l'étude de marché, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a autour de vous ? Qu'est-ce qui a été déjà fait ? Est-ce que d'autres personnes ont déjà tenté ? Est-ce que vous pensez que vous allez peut-être projeter ou le faire différemment ?
Mais Alexandre Mars, j'entends ce que vous me dites et évidemment, on adore parce qu'on a envie de puiser là-dedans. Mais quand même, vous, votre parcours, c'est aussi HEC. C'est Dauphine, la fac d'économie parisienne, c'est HEC. Donc, si on n'a pas fait ce parcours-là, est-ce qu'on tente ? Est-ce qu'on y va ? Même si on est un bourreau de travail.
Moi, je peux vous donner tout un tas d'exemples de gens qui ont pu réussir sans forcément
avoir
passer
un parcours universitaire.
Ce qui est intéressant, c'est que quand je suis passé dans ces écoles-là, il y a 20 ans de ça, la majorité des gens, je peux vous dire, Nathalie, ils ne cherchaient pas à être entrepreneurs. Le monde a changé. Le monde, quand vous allez aujourd'hui dans les écoles, pas que les grandes écoles, l'entrepreneuriat, c'est 46% des jeunes de moins de 25 ans veulent monter leur entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement les moins de 25 ans. De plus en plus de gens se disent « mais pourquoi pas moi ?»
Donc vous nous dites « même si on n'a pas la formation, on y va quand même. »
Mais bien
aussi.
Sûr.
Et surtout
mais
presque.
L'ancien monde, c'est de penser que les formations vont tout faire.
Je reviens à l'échec, pardonnez-moi, parce que je suis sûre que ça attise la curiosité et ça intéresse évidemment nos auditeurs qui vous appellent au 3921. L'échec, on se relève, on y retourne, on repart au combat. C'est formateur, c'est évident, j'allais dire... Bon, quand même, on le sait, ça, un petit peu. Mais l'échec, ça peut être aussi engager avec nous des gens, des salariés qui se retrouvent sur le carreau. Ça laisse des marques. Comment on fait pour se relever après ça ?
Vous avez de toute façon, l'entrepreneuriat laisse des marques. les entrepreneurs, ils ont, comme moi, des cicatrices, ouais, des stigmates, bleus, quoi, évidemment. Ouais. C'est pas facile. Se relever, c'est quand même une résilience. Cette résilience d'entrepreneur, elle est réelle. Ça arrive quasiment jamais que votre propre idée, la première fois, va fonctionner et vous allez avoir la capacité d'être invité au journal du soir de Nathalie V.
Oh oui,
il y a peu de chances que ça arrive tout de suite. Mais vous allez travailler, vous allez pouvoir peut-être pivoter. Nous, ce qu'on voit dans les entrepreneurs, on pivote souvent.
On pivote souvent,
pivoter, c'est s'adapter. Et c'est pour ça que ce que je dis régulièrement, nous sommes des éponges, les entrepreneurs sont des éponges. Des personnes qui vont justement écouter, toujours se positionner pour peut-être adapter un peu son produit à l'offre.
Alors, on va s'arrêter une petite seconde, mais on a déjà deux grandes lignes, si j'ose dire. Le travail, le travail, le travail, et puis la résilience, hein, y retourner, et l'idée. J'ai bien noté là, déjà. La suite, c'est dans un instant. Vous êtes avec nous, Alexandre Mars, jusqu'à 20h. Ça s'appelle Ose chez Flammarion.
Et si vous avez des questions à poser à Alexandre Mars, il vous répond en direct au 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec votre invité Nathalie Lévy. Vous recevez Alexandre Mars, entrepreneur à succès en Europe et aux États-Unis. Il sort un livre qui s'appelle Ose, tout le monde peut devenir entrepreneur chez Flammarion.
Oui, ça vient de sortir hier d'ailleurs.
Il est sorti hier.
C'est ça, exactement. Donc merci d'être là. Et Raphaël nous appelle ce soir de Paris pour vous poser une question, Alexandre Mars. Bonsoir Raphaël, bienvenue.
Bonsoir.
On vous écoute.
Donc en fait, je suis un étudiant, j'ai que 20 ans, et je voulais savoir comment c'était possible de convaincre des collaborateurs à supporter un projet quand on n'a pas ou peu de moyens financiers à leur promettre, et si éventuellement il y a des bonnes pratiques pour s'allier avec des collaborateurs ou des investisseurs pour lancer un projet.
Intéressante question,
c'est vrai. Une question extrêmement intéressante qui est une question clé pour les entrepreneurs. C'est vrai que trouver des financements, là, ça peut être des collaborateurs, c'est-à-dire que je me lance et j'ai besoin d'avoir d'autres personnes qui vont venir avec moi pour travailler dans ce projet-là, et puis trouver des investisseurs. Souvent, en fait, et il y a un chapitre entier sur ce sujet-là dans le livre qui est « Séduire les investisseurs », c'est globalement déjà bien comprendre sa cible. Des investisseurs potentiels, il y en a tout un tas. Ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être des investisseurs institutionnels. Et donc à chaque fois, il faut vraiment assez s'adapter, ou en tout cas adapter son offre, mais justement aux personnes que nous allons voir. Et puis après, en tout cas moi de mon côté, j'ai défini une douzaine de catégories qui vont être importantes pour justement convaincre les gens que votre projet est le bon projet. Vous parliez tout à l'heure de l'étude de marché, c'est la taille du marché, c'est la qualité de l'équipe, c'est tout un tas, c'est le développement potentiel. Mais c'est vrai, Raphaël, le sujet est important, c'est que c'est très compliqué. Même si on dit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'argent sur le marché, puisque le marché fait que de grimper depuis maintenant une dizaine d'années.
La création d'entreprises en France, vous nous rappeliez là off le chiffre.
Plus de 815 000 créations d'entreprises l'année dernière. La France est devenue le premier pays, en tout cas en création d'entreprises en Europe. Ça prouve quand même qu'il y a une vraie appétence. Ce qui est intéressant aussi, et c'est important à le signaler, Raphaël a 20 ans, ce qu'on voit aussi, c'est des gens qui n'ont pas tous moins de 25 ans. Mmh. On voit aujourd'hui cette volonté d'être entrepreneur, des gens qui peuvent en avoir 55 ou qui en ont 40. Pourquoi ? Parce que l'entrepreneuriat, il est protéiforme. L'entrepreneuriat, ce n'est pas uniquement vouloir monter une start-up Internet. Mmh. L'entrepreneuriat, ça est en région. L'entrepreneuriat, c'est totalement différent. Ça peut être des secteurs totalement différents. Et c'est ça qui est passionnant.
Merci Raphaël de votre appel, on vous salue avec Alexandre Mars et continuez à nous écouter. On est quand même dans un climat particulier aujourd'hui, Alexandre Mars, en France. On voit cette réforme des retraites, il faut s'adapter sans doute, faire comme nos voisins européens, travailler plus longtemps, en tout cas c'est ce vers quoi on tend. Dans ce climat, dans cette espèce de sinistrose et puis aussi dans cette défiance vis-à-vis des réformes voulues par Emmanuel Macron entre autres, l'entrepreneuriat c'est la solution justement ?
Est-ce que c'est la solution ? En tout cas, c'est certainement une solution. Dans l'entrepreneuriat, la différence certainement qui existe entre aujourd'hui et il y a quelques années, c'est que les entrepreneurs essaient de définir une mission dans leur entreprise. Pourquoi ? Parce qu'en effet, les choses ont changé. Elles ont changé en 2-3 ans, Nathalie. Quand aujourd'hui vous interviewez des gens, vous vous rendez compte que les gens veulent du sens. C'était différent il y a 10 ans ou 20 ans.
Mais ils trouvent du sens, ils veulent encore, même si c'est compliqué, les taxes, les cotisations, les charges, le climat en général et en particulier.
Mais c'est obligatoire le sens. C'est qu'on a justement oublié pendant tellement longtemps la mission. On a parlé il y a quelque temps de l'entreprise à mission. C'est pas uniquement certainement pour faire plaisir, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur, vos auditeurs Nathalie, les citoyens, Ben oui, ils veulent de plus en plus du sens. Ils ne comprennent pas qu'une entreprise comme Apple puisse ne pas payer ses impôts en France. Oui. C'est inacceptable. Et pourquoi la réussite d'une entreprise comme c'est qui le patron,
oui,
qui arrive à se construire et justement sur du sens, c'est-à-dire on va essayer de mieux rémunérer les producteurs. Des entreprises comme ça, on en voit de plus en plus. Elles se créent, elles se développent. Mmh. Et pourquoi ? Parce que les consommateurs, certainement, veulent acheter différemment. Les citoyens, peut-être, veulent peut-être quelque chose de différent.
Gary nous appelle également depuis Paris. Bonsoir Gary, vous êtes tout jeune aussi, vous avez 20 ans décidément. Hein.
Oui.
Bonsoir à vous, on vous écoute poser votre question.
Je suis étudiant en droit, donc je fais pas mal de stages en cabinet surtout, mais du coup j'ai pu voir un certain nombre d'entrepreneurs, pas forcément juste des start-upers, mais aussi des PME plus classiques. Il y a des véritables problèmes purement administratifs, que ce soit la création de l'entreprise jusqu'à problèmes quotidiens. Et je voulais savoir si il y a des améliorations sur ce qui est la tâche administrative de l'entrepreneur. Ou est-ce que prochainement des améliorations sont envisagées ?
Alors ça, c'est vrai que ce qu'on voit régulièrement, c'est, merci Gary pour ta question, c'est qu'on voit la plupart du temps des difficultés pour créer les entreprises. Il faut voir, en particulier en France, qui a la chance de voir tout un tas de pays, qu'on est quand même bien mieux loti que beaucoup d'autres pays. On est capable de créer l'entreprise quasiment dans une journée. En fait, beaucoup de choses ont été faites, pas par un gouvernement, mais par plusieurs grands gouvernements à la suite. Donc, en effet, c'est pas parfait, loin de là. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est quand même fait, et c'est une des raisons pourquoi il y a autant d'entrepreneurs, parce qu'il y a aussi un certain nombre d'auto-entrepreneurs, des personnes qui ont pu justement quitter le chômage en faisant ça, qui peuvent justement monter des petites entreprises ou des entreprises unipersonnelles grâce à ces systèmes-là. Donc, en effet, on peut toujours s'améliorer. Mais ce que je vois par rapport à ailleurs, c'est qu'on est quand même pas mal ici.
On est quand même pas mal ici. On va parler des États-Unis dans un instant quand même, parce qu'il y a des choses à apprendre d'eux. Et vous allez nous dire quoi précisément, Alexandre Mars. Ça s'appelle Ose, tout le monde peut devenir entrepreneur. Il vous le confirme là ce soir jusqu'à 20h au micro d'Europe 1. Flammarion pour les éditions.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Jusqu'à 20h sur Europe 1, Nathalie Lévy, vous recevez l'entrepreneur Alexandre Mars qui nous aide à oser et à se lancer. Avant de continuer à parler de l'entrepreneuriat, on parle musique avec la playlist du soir. Qu'est-ce qu'on s'écoute aujourd'hui, Nathalie Lévy ?
Et le groupe Trio qui fête ses 25 ans avec une nouvelle version de leur tube, l'hymne de nos campagnes.
Et les mannes, faut faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose.
Tu te souviens de ça, toi ?
Le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes.
86, tu
dis ? Alexandre Mars, il connaît pas les paroles, hein, je peux vous le dire.
Non.
Non, début des années 2000.
Ouais, à peu près.
Alors, Vianney, Zaz, Claudio Capeo.
98, exactement.
Big Flo et Oli accompagnent Trio sur cette version collégiale de l'hymne de nos campagnes. Et puis, demain sortira un album et ce sera une invitation. Demain, écoutez bien, chez Philippe Vandel, de 10h à 11h dans Culture Média, ils seront là pour ce double album de Duo 25 et pour fêter ça, ils rempliront aussi l'Accor Hôtel Arena. Ce sera le 30 mars prochain. Là, vous avez toutes les infos.
Oui, on a tout et on sera au rendez-vous demain avec Philippe Vandel. Avant cela, jusqu'à 20h, vous recevez l'entrepreneur Alexandre Mars pour son nouveau livre « Ose », paru chez Flammarion.
Alors Alexandre Mars, on va rester ensemble parce que après Trio, tout à fait un autre style, mais je voudrais que vous écoutiez quand même.
Réussir sa vie, c'est traverser un océan, sans savoir pourquoi ni pourquoi.
Là, vous connaissez les paroles. Vous vous souvenez ?
Non, je me souviens pas. C'est-à-dire que là,
vous vous souvenez pas, vous connaissez la voix.
Ah oui, non, mais là, je vois sur l'écran. Donc je vois que...
Bernard Tapie, oui. 86, cette émission Ambition.
Ah oui.
Eh oui, alors il était comme ça dans le show pour haranguer les foules et surtout les entrepreneurs pour dire il faut y aller, il faut se lancer, il faut oser. Finalement, on se retrouve un peu. Vous êtes un peu comme ça l'héritier de Bernard Tapie dans le monde des affaires, j'entends.
Ah, ça, vous ne l'avez pas encore fait, celle-là. Bah oui, donc, Nathalie, bravo. Donc, je suis content que je suis le fils putatif de.
En tout cas, est-ce que vous êtes un petit peu inspiré de Bernard Tapie, l'homme d'affaires, hein, mettons le reste de côté, l'homme d'affaires quand même.
Alors, c'est marrant, ça n'a jamais été
une inspiration.
Ça n'a jamais été une inspiration. Donc il a fait de certaines choses, en tout cas sur le parti sportif certainement, que j'ai suivi, plus que sur le reste. Mais non, ça n'a pas été, en tout cas, ce n'est pas du tout une source d'inspiration. Pas du tout, mais en tout cas,
pas du tout. Bah,
je
voilà,
vois qu'il était chanteur. Ça, je pense que aussi, j'aurais aussi mal chanté que lui, je pense. Donc,
bon, voilà, donc, pas mal. Donc, pas Bernard Tapie pour l'inspiration. En revanche, du côté des États-Unis, vous êtes allé chercher l'inspiration?
Bah, j'habitais là-bas pendant 10 ans. Donc, c'est vrai que ça aide. Mais pas forcément sur l'inspiration. C'est en effet là-bas, vous parliez d'échec au démarrage.
C'est ça.
Bah, c'est vrai que
on
là-bas.
On n'a pas le même regard.
Le regard sur l'échec est donc plutôt positif. Parfois, c'est un peu excessif. Mais c'est vrai que là-bas, ils disent une chose suivante, c'est que faites une erreur une fois, ça va. Faites une erreur deux fois, si c'est la même erreur, ça pose un problème. Mais surtout une fois, c'est plutôt positif parce que vous allez apprendre.
C'est ça. Parce que quand même, aux États-Unis, on nous pousse, on met en avant ceux qui gagnent, qui ont la win. En France, c'est pas tellement dans notre culture. On est plus dans la jalousie.
Au contraire,
on est plus dans.
Ouais.
Voilà, il y a quand même ça encore beaucoup non, aujourd'hui, non
en effet, mais en effet, mais c'est. Espérons, c'est ça qu'on va essayer de faire changer. C'est la capacité, c'est. Quel est ce succès? La différence avec. Bernard Tapie, peut-être il y a 25 ans ou 30 ans de ça, c'est qu'à l'époque, la réussite, c'était uniquement un nombre de zéros dans un compte en banque. La grande différence aujourd'hui, Nathalie, c'est que la réussite, elle est différente. La réussite, c'est certainement pas ça. Si vous voulez réussir juste pour gagner plus, je peux vous assurer que votre réussite sera nulle ou inachevée.
Du
c'est
sens.
Sûr et certain.
Du
Donc
sens.
Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que cette réussite, oui, pourquoi pas. Mais cette réussite, c'est pas forcément construire quelque chose de plus grand que vous-même. Essayez de la définir d'abord et c'est vous êtes la seule personne à pouvoir la définir.
Alexandre Mars, on a encore deux questions pour vous. Moi, je voudrais vous demander déjà, parce que vous prenez le partage des richesses par le don, vous pensez quoi? Que l'État-providence a échoué?
Non, je pense que l'État-providence ne peut pas tout faire tout seul. Je pense qu'en effet, les entreprises, et en particulier les grandes entreprises, sont là pour faire plus. Et c'est intéressant, je regardais cet article de Jean-Laurent Bonnafé ce week-end dans le journal du dimanche qui disait « Aujourd'hui, le succès, ce n'est pas uniquement une question d'indice du profit. Enfin, » c'est incroyable de voir aujourd'hui le monde qui a basculé. Nathalie, le monde bascule petit à petit. Pourquoi? Parce que de plus en plus de personnes, et c'est nos auditeurs aujourd'hui, sont des activistes, peut-être des micro-activistes, mais ils veulent changer ce qu'on voit au quotidien.
L'État dans sa redistribution, on n'y est pas, le compte n'y est pas, c'est insuffisant?
C'est insuffisant évidemment, ce n'est pas la faute de l'État. C'est qu'aujourd'hui, les richesses ne sont pas distribuées, ne sont pas redistribuées. On ne peut pas accepter que dans un pays comme la France, on ait eu 400 000 pauvres, nouveaux pauvres, l'année dernière. Qui accepte ça? Peut-être qu'on l'a accepté pendant des années et des années. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens disent comment faire différemment. Et faire différemment, c'est que toute personne soit à peu près à la même enseigne. Reparlons de nos amis d'Apple. Ouais. Peut-être qu'il faut faire comprendre à ces gens-là que c'est inacceptable de pouvoir fonctionner dans un pays comme ce pays qui est la France, en ne prenant pas les mêmes droits que les autres.
Il y a plein d'exemples, évidemment. Il y a des témoignages aussi dans votre livre, des histoires. Vous rappelez Walt Disney, parce que c'était incroyable. Il y a eu échec sur échec, et après, on connaît le succès. Et il y a évidemment des entrepreneurs connus, moins connus, donc à se procurer. Je voudrais qu'on se dise un mot des trophées européens de l'avenir 2020, parce que ce sera la semaine prochaine, lundi précisément. Vous en êtes encore le président du jury, et pour cause. Cérémonie qui récompense les entreprises, les personnalités les plus audacieuses, les plus innovantes. 43 nommées cette année, c'est important. C'est important,
c'est essentiel.
Ce type de...
Non, mais c'est ça. Parce que là, encore une fois, ces gens-là créent la société de demain qui sera plus durable, plus harmonieuse, assise sur les valeurs d'optimisme, d'innovation. Donc, évidemment, et en France, on a ces entrepreneurs-là. Ils sont de plus en plus. Il faut évidemment les aider à se propulser. Et ces trophées de l'avenir aident à ça. Vous allez voir, les vainqueurs sont exceptionnels. Pas uniquement à Paris, ça aussi c'est intéressant. Ils sont partout en France. Les régions ont aussi une valeur, ont des gens de compétences incroyables. Et d'ailleurs, on a certains anciens vainqueurs qui ont été exceptionnels. C'est qui le patron, Nicolas Chaban? On fait partie, Too Good To Go, la ruche qui dit oui, c'est des anciens vainqueurs. Cette année, vous allez beaucoup aimer les nouveaux vainqueurs.
Exactement, ce sera le 27 janvier, donc lundi, l'alimentation, l'éducation, la solidarité, et j'en passe, plein de catégories. Et donc, Alexandre Mars, une nouvelle fois, président du jury. Merci beaucoup, Alexandre
merci
Mars.
À vous, merci Ose, beaucoup.
Aux éditions Flammarion, merci. Émilie Mazoyer, dans la place.
Salut,
elle ose.
Chaque soir,
Émilie Mazoyer, salut à vous, le programme.
Ce soir, on sera avec un garçon qui a écrit en gros la moitié des tubes de votre playlist. C'est un garçon qui a écrit pour Paul Naref, pour Mika, pour Bachung, pour Julien Doré et même pour les L5.
Toutes les femmes de ta vie.
Et il réinterprète les chansons qu'il a écrites pour d'autres. Il s'appelle Dorian. Son album Portrait sort demain. Il réinterprète donc ces chansons-là. Puis il a invité plein de gens sympas sur son disque. Il y a les Brigitte, il y a Kerenan, il y a Philippe Catherine. Il sera avec nous tout à l'heure à 20h30.
C'est le nouveau Barbelivien, quoi. Hein. C'est l'homme
ça.
Qui écrit tout, quoi.
Je dis, on lui demandera ce qu'il pense de cette comparaison. Émilie Mazoyer, on verra la réponse. Salut à vous, belle émission. On vous écoute, bien sûr, 18h-20h, c'est chaque soir sur Europe 1 pour être informé, pour sourire également. L'information, votre grand journal du soir.
soir. Anissa, à demain.
À demain, Nathalie.
Belle soirée à tous. Merci de votre fidélité. On reste ensemble pour écouter Le Monde Changer.
C'était Nathalie Lévy sur Europe 1.